question. Nous allons donc commencer par faire l'appel. Monsieur Lancel. Madame Mousset. Monsieur Duc.
Présent.
Madame Chute.
Présent.
Monsieur Hamelin.
Présent.
Madame Lyon.
Présent.
Monsieur Farouin.
Présent.
Madame Gallois.
Présent.
Monsieur de Maigret.
Présent.
Monsieur Nouganouga.
Présent.
Monsieur Houlier.
Présent.
Madame Piocergue. Monsieur Tente Marquez.
Présent.
Madame Jacqui.
Présent.
Madame Poirier.
Présent.
Madame Rapaille.
Présent.
Monsieur Bruno.
Présent.
Madame Siget est absente et représentée par Madame Lyon. Monsieur Contant est absent, excusé, il est en commission avec la communauté de communes et il est représenté par Monsieur Gunner. Madame Martinet.
Présent.
Monsieur Gunner.
Présent.
Madame Galochet.
Présent.
Monsieur Billou. Monsieur Garbache.
Présent.
Monsieur Chikaya.
Présent.
Madame Cosseron.
Présent.
Madame Lagoutte.
Présent.
Et Monsieur Durox.
Présent.
Alors, en tant que secrétaire de séance, je vous propose de désigner Madame Lyon. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Je vous remercie, Madame Lyon est donc notre secrétaire de séance. Le premier point, donc, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Lagoutte, je vous en prie.
Madame le maire, bonjour à tous. Alors, j'ai en effet remarqué que vous avez ajouté votre question écrite du 28 octobre 2020 et votre réponse du 30 novembre au procès verbal sur Internet. Malheureusement, nous vous avions aussi adressé une question écrite en date du 12 octobre à laquelle vous aviez d'ailleurs répondu le 28 octobre. Celle-ci aurait dû aussi apparaître au dernier procès verbal, ce qui n'est pas le cas. Nous vous demandons donc, Madame le maire, d'ajouter à ce procès verbal cette question du 12 octobre qui n'apparaît pas, accompagnée de notre réponse du 28 octobre, afin qu'elles apparaissent enfin toutes depuis que nous les avons posées. Il serait bien en effet que nos questions écrites, comme le veut le règlement intérieur de ce Conseil, soient incluses dans le procès-verbal que vous nous envoyez d'ailleurs avec le Conseil municipal afin que l'ensemble des élus présents puissent en prendre connaissance avant la mise au vote du procès-verbal. Donc pour toutes ces raisons de forme et de fond et pour la non-publication de toutes nos questions, nous voterons encore contre cette fois-ci et j'espère la prochaine fois que vous voterez pour le procès-verbal. Merci.
Je prends bonne note de vos remarques, madame. Ensuite, les décisions et conventions. Ah oui, de vote. Donc, qui s'oppose? Si, vote contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point suivant, il s'agit des décisions et des conventions, des décisions prises et des conventions signées. Pour information que vous trouvez donc, vous avez trouvé avec ce. La convocation du conseil municipal. Nous passons ensuite à la tenue du conseil municipal. Ah oui, non, j'ai oublié. Oui, Madame Lagoutte. Oui, allez-y.
Oui, Madame le maire, merci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de conventions, notamment sur des changements d'occupation de salle du fait du Covid, pas mal d'associations sportives. Par contre, j'ai une convention que j'ai eu du mal à comprendre, mais c'est normal, on n'a pas tous les dossiers en main. C'est celle de l'association Nangis Natation, dans laquelle il y a une modification, alors je pense, d'horaire. Et ensuite, à l'article 1, je n'ai pas bien compris la modification sur l'éducateur sportif de la période mentionnée dans l'article 2. Ah, j'ai pas bien compris la convention. Enfin, si, peut-être. Le délégué au sport n'est pas là. Je n'ai pas bien compris la teneur de la convention. Est-ce que les horaires ont changé ?
Oui, les horaires ont changé. Et on a étudié l'aspect réglementaire des choses. Les personnels diplômés du club de natation assurent la surveillance. Il n'y a donc pas besoin nécessairement qu'il y ait un personnel municipal en plus. Du personnel, le bassin est loué sans surveillance, puisque la surveillance est assurée directement par les utilisateurs, puisqu'ils ont les diplômes requis.
Très bien, j'avais eu du mal à. Merci.
Alors, avant de démarrer, je voulais vous signaler que le point numéro 6, à l'actualisation du règlement de fonctionnement du multi-accueil de la ville de Nangis est retiré de l'ordre du jour. Et nous passons donc à la tenue du conseil municipal à huis clos, et ce dans le respect du texte en vigueur. Qui est contre ? Si vote contre, qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc le débat d'orientation budgétaire et je vais laisser la parole à M. Lancel. Je vous présente donc Mme Catherine Laglé, qui a rejoint le personnel municipal, qui est notre nouvelle directrice des finances et qui va donc nous présenter ce débat d'orientation budgétaire sur lequel elle a travaillé avec ses équipes.
Bonsoir à tous. Comme on l'a évoqué en commission de finances, dans un contexte national et international très très particulier compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19 depuis début 2020, une économie mondiale affaiblie par ce contexte tout particulier. On retrouve dans ce contexte la persistance de tensions géopolitiques et les menaces pesant sur la stabilité de certains pays, mais également le nôtre, et des effets rebondissants nécessairement sur les collectivités territoriales et leur budget. Vous retrouverez, à partir de la page 4, des projections de croissance et de perspectives sur l'économie mondiale. L'économie française et la crise sanitaire, ça veut dire que pour 2019, en ce qui nous concerne, l'économie et la pandémie a affaibli les finances. On peut constater un recul du PIB, donc du produit intérieur brut, qui a chuté de 13,7% au second trimestre. On constate l'assouplissement de restrictions sur l'activité économique française fortement rebondie au terme de l'été 2020, avec un niveau inférieur à 4% à son niveau d'avant-crise. Vous retrouvez sur la page 5 des graphiques qui montrent le niveau d'investissement des entreprises et des ménages qui chute littéralement de 2019 à 2020. Avec une prévision de croissance légèrement à la hausse sur 2021, mais une croissance qui devrait se stabiliser et remonter juste à l'horizon 2023. Ça veut bien dire que pour les collectivités territoriales, les budgets vont devoir être très très maîtrisés. Les orientations de la loi de finances pour 2021 concernent des grands chapitres. En ce qui nous concerne et en ce qui concerne les collectivités territoriales, ça signifie aussi la fin des dégrèvements de la taxe d'habitation. Donc, sous le double effet de la baisse de l'activité et de l'intervention politique massive en raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020. Tandis que la dette publique s'élèverait à 119,8% du PIB selon les résultats du quatrième trimestre qui sont en cours de publication et suivant le premier jet de la loi de finances 2021. La loi de finances 2021 prévoit des transferts financiers de l'État aux collectivités en baisse. On rappelle donc la fin du dégrèvement des taxes d'habitation. La taxe d'habitation devient un impôt d'État. Elle sera définitivement supprimée en 2023. La PLF rappelle en bilan pour l'année 2020 que 80% des contribuables sont dégrévés sur les résidences principales de la TH, qui est supprimée pour eux. En 2021, transformation du dégrèvement en exonération pour les 80% de contribuables les plus modestes. Transfert de la taxe sur le foncier bâti départemental aux communes, transfert d'une fraction de la TVA aux intercommunalités, mise en œuvre d'un mécanisme de neutralisation de la suppression de la taxe d'habitation, dégrèvement à hauteur de 30% de la cotisation de la taxe d'habitation sur les 20% de résidences principales restantes. Pour 2022, dégrèvement à hauteur de 65% de la cotisation de la taxe d'habitation sur les 20% de résidences principales restantes. Et pour 2023, suppression de la taxe d'habitation au titre des résidences principales. L'ensemble des contribuables résidents principaux n'acquittent plus la taxe d'habitation. Maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les locaux professionnels. À ce terme du projet de loi de finances et du premier jet, l'État promet une compensation qui devrait être à 100% pour les collectivités territoriales, mais là encore une fois, on est sur une première proposition. L'État prévoit dans cette loi de finances le maintien de la dotation globale de fonctionnement. L'article 22 de la loi de finances 2021 prévoit les dispositions relatives aux collectivités territoriales et la fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement et des variations d'ajustement. Pour 2021, la DGF est maintenue à un niveau stable d'environ 27 milliards d'euros. L'article 22 fixe le périmètre ainsi que le taux de minoration des variations d'ajustement. Il propose une minoration de ces variables à l'ordre de 50 millions d'euros, supportée par moitié par les départements et pour moitié par les régions. Il reconduit également le plafonnement du prélèvement sur recettes, ce qu'on appelle les PSR, de compensation de relèvement du seuil du transport revenant aux autorités organisatrices de la mobilité. C'est pourquoi sur l'exercice 2021, l'inscription de la DGF est maintenue à 1 311 946 euros. Présentation du rapport d'orientation budgétaire pour le budget principal. Les orientations budgétaires 2021, la fiscalité, donc vous avez pour rappel un tableau de la fiscalité depuis 2016 jusqu'à 2021. La municipalité n'a pas souhaité augmenter la fiscalité sur 2021, les taux sont donc maintenus. La loi de finances initiale pour 2021 prévoit une revalorisation des bases cadastrales de plus 1,002%. Considérant que cette revalorisation risque de ne pas être maintenue, compte tenu du climat de crise sanitaire qui perdure depuis de longs mois, la municipalité a donc décidé pour le moment de ne pas revaloriser ses bases fiscales tant qu'on n'a pas confirmation. Vous retrouverez un tableau qui présente les différentes recettes qui sont constatées sur le budget. Vous avez le CA provisoire qui apparaît provisoire parce qu'aujourd'hui la clôture comptable n'est pas complètement terminée. Et l'estimation 2021. Donc pour les taxes les plus courantes, donc les taxes de séjour, la TLPE notamment, sur 2020 il n'a pas été constaté de TLPE. L'exercice 2021 affiche provisoirement un montant de 45 000 euros, ce qui représenterait la TLPE de l'année 2020 cumulée à la TLPE de l'année 2021 qui n'a pas été constatée. On reste sur du prévisionnel. Les droits de place qui étaient constatés entre 3 600 euros en 2019 et prévus à hauteur de 3 600 euros pardon, en 2019 et constatés à 2 575 euros ont représenté sur le budget 2020 30,10 €. Ces droits de place correspondent à la taxe qui est appliquée par les commerçants sur les marchés. Et compte tenu du confinement au premier trimestre, il n'y a pas eu de constatation de recettes à ce niveau. L'estimation provisoire de ces recettes sur l'exercice 2021 est donc de 452 999 euros. Plusieurs lignes de recettes comme la TLPE et les droits de place seront rattrapées en 2021, faute de titrage de recettes en 2020 pour la TLPE. Et concernant les droits de place, le confinement du premier trimestre donc a nettement fait baisser ces entrées de recettes communales. Les concours de l'État et de la communauté de communes. La dotation globale de fonctionnement, comme je vous l'ai dit précédemment, sera inscrite à l'identique, puisque devrait être normalement maintenue. Vous retrouvez dans le tableau donc en fait le découpage de la dotation globale de fonctionnement qui concerne en fait plusieurs dotations. La dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Le total de ces dotations représente donc 1 311 946 euros, inscrits par prudence à l'identique sur l'exercice 2021, proposé en 2021 à l'identique. Pour les autres dotations, le Fonds national de garantie de la région Île-de-France, le FNGIR, est inscrit à l'identique puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur le maintien, la baisse ou l'augmentation de ce type de ressources. Le Fonds de solidarité de la région Île-de-France est de nouveau, lui aussi, reporté à l'identique à 769 779 euros. Les dotations de compensation ont été constatés à hauteur de 552 329 euros en 2020, provisoirement inscrites en 2021 et proposées à 548 351 euros, simplement parce que vous verrez sur la petite ligne en jaune en bas du tableau que 3 888 euros inscrits en rattachement 2020 seront constatés sur 2021. Ça veut simplement dire que les types de recettes n'ont pas été émis sur l'exercice 2020 et qu'ils le seront en régularisation sur 2021, mais bien rattaché sur l'exercice d'origine. L'attribution de compensation de la communauté de communes n'a pas été communiquée au jour d'aujourd'hui, donc elle est reportée à l'identique pour le moment. Les produits des services. Alors en 2020, effectivement, compte tenu du confinement et du caractère très exceptionnel de cette année atypique, les recettes périscolaires qui en 2019 avaient été constatées à hauteur de 165 180 euros n'ont représenté que 48 198 euros sur 2020. Les recettes liées à la restauration municipale qui en 2019 avaient été constatées à 289 763 euros ont représenté 159 792 euros de recettes sur 2020. Pour ces deux lignes de recettes, en 2021, une inscription prudente a été calculée et en fait, on a procédé à une moyenne entre le montant constaté en 2019, le réalisé 2020. C'est pourquoi vous ne retrouvez pas les mêmes inscriptions que le constaté 2019 et qu'il n'était pas non plus nécessaire de reporter à l'identique 2020. On n'a pas connu de confinement total sur 2021 au jour d'aujourd'hui. Donc c'était plus prudent de faire une moyenne. On ajustera le cas échéant si besoin. L'excédent antérieur reporté de fonctionnement provisoire, je précise, puisque la clôture comptable n'est pas pleinement terminée, devrait s'élever à 1 043 566 €. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement pour l'année 2019 étaient constatées à hauteur de 13 076 829 €. Le CA provisoire, donc le compte administratif provisoire, fait apparaître un résultat de 12 308 851 €. Les recettes réelles de fonctionnement qui étaient constatées en 2019 à 13 971 188 € font apparaître un CA provisoire à 14 100 572 €. Les dépenses d'investissement en 2019 constatées à 3 195 056 € ont elles aussi chuté sur le CA provisoire 2020 puisqu'elles sont à 1 488 856 €. Et les recettes réelles d'investissement qui étaient de l'ordre de 2 861 363 € en 2019 sont constatées à 1 522 539 € sur le CA provisoire. L'année 2020 a été une année de grande maîtrise budgétaire et de contrôle de gestion dès le second semestre. Outre la fragilité causée par la crise sanitaire et la Covid-19, on constate un net recul des dépenses de fonctionnement. Pour l'exercice 2021, l'année de référence pour constituer le budget principal est 2019, en appliquant toutefois une minoration de 10% sur les charges réelles de fonctionnement, soit un total inscrit de 11 769 146 €. Ce, afin de réaliser cet effort consenti par l'équipe municipale, sans pénaliser le niveau de qualité du service public rendu aux Nangiciens et Nangiciennes, une étude de réaménagement de la dette permettant une baisse du montant des intérêts à rembourser sur l'exercice 2021 est en cours actuellement. Concernant les dépenses de personnel, le budget 2021 sur son chapitre 012 propose une inscription de 7 999 773 €. Suite à plusieurs départs volontaires au sein des services municipaux, une réflexion sur la carte des emplois a été engagée par l'équipe municipale afin d'organiser au mieux les services et d'optimiser le budget 2021 et notamment la masse salariale. La municipalité propose un budget prévisionnel 2021 inférieur de 248 982 €.
On devrait juste un point, 248 000 euros en moins, c'est en incluant les 80 000 euros d'augmentation naturelle annuelle. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une baisse à effectif constant de 300 000 euros.
Concernant les subventions aux associations, malgré un contexte économique difficile, la municipalité décide en 2021 de reconduire le montant alloué au titre de l'exercice 2020 à hauteur de 287 406 €. Les arbitrages sont actuellement en cours pour l'attribution de ces subventions. La participation totale du budget principal au budget annexe sera globalement maintenue pour un total n'excédant pas 1 376 658 € en 2021. Vous trouvez en page 14 donc l'encours de la dette. « l'entrée dans l'actif de la dette de l'emprunt de 2 millions d'euros souscrit en 2018 a accru la capacité de désendettement qui passe ainsi de 10,1 années de remboursement à 10,8 années. L'amortissement du capital de l'immense majorité des emprunts souscrits par la ville est progressif, ce qui signifie que le remboursement annuel du capital augmente au fil des ans lorsque le paiement des intérêts diminue. Il n'est donc pas surprenant de constater que l'amortissement du capital augmente entre 2020 et 2022 et, à contrario, de voir les intérêts diminuer. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour l'exercice 2021, une étude de rachat global des emprunts en cours est actuellement menée par l'équipe municipale. Afin d'optimiser l'épargne sur le montant des intérêts et du capital à rembourser sur l'exercice. Ce travail va notamment permettre de dégager une marge d'autofinancement pluriannuelle durable, un allègement du remboursement des emprunts par exercice, qui aujourd'hui est à la limite de 7%, tant sur la section de fonctionnement pour la part intérêt que sur la section d'investissement pour la part capital. Page 15 du ROB, vous retrouvez le tableau qui est en fait l'annexe budgétaire de l'état de la dette qui figure dans le budget et dans le compte administratif chaque année. Concernant la section d'investissement, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2020 et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette. Les restes à réaliser 2020 constatés au compte administratif provisoire à ce jour seront repris à l'identique dans le budget primitif 2021. Concernant les dépenses, la totalité des restes à réaliser s'élève à 552 957,25 euros. La totalité des recettes s'élève à 349 221,11 euros. La différence entre les dépenses qui restent à réaliser et les recettes restant à réaliser est de 203 736,14 €. Sont inclus dans ces restes à réaliser 48 302 € correspondant à un engagement de régularisation qui a dû faire l'objet de saisie au 31 décembre 2020 par le service financier d'un engagement afin de régulariser un DGD, un décompte général et définitif, pour le compte de la société ID89 qui a réalisé des travaux en 2019 dans la salle d'activité de l'école des Rossignols. L'engagement comptable avait été soldé fin 2019 alors que le procès verbal de réception de travaux a été approuvé en novembre 2019 et la facture DGD du cabinet d'architectes concernant ce chantier était en attente de présentation pour mise en mandatement. Le principe d'annualité budgétaire n'a donc pas été respecté pour cette dépense que nous avons dû rattacher par engagement de report sur l'exercice 2020 et qui va venir gonfler l'enveloppe des dépenses d'investissement à assumer sur l'exercice 2021 puisque la situation du DGD est arrivée le 20 février 2021 au moment de la clôture comptable et de l'arrêt des comptes de l'exercice 2020. Concernant la liste des principales demandes d'investissement pour l'exercice 2021 sur le budget communal, en voirie, on trouve les travaux dans le cadre du bail de voirie à hauteur de 600 000 euros qui correspondent à un marché. En éclairage public, une prévision de travaux de 100 000 euros. En accessibilité arrêt de bus, une prévision de 108 000 euros. Et en électrification du parc du château, une prévision de 100 000 euros également. Concernant les travaux par bâtiment, groupe scolaire Noah, 31 000 euros. Groupe scolaire des Rossignols, 95 000 euros. Groupe scolaire château, 20 000 euros. Église, 191 700 euros. Espace Solidarité, 7 800 euros. Gymnase, 69 000 euros. Halle des Sports, réfection, donc travaux de réfection, dont 40 000 euros d'études préalables. Les travaux de réfection, s'élèveraient à 2 055 000 euros. La jouerie, 25 000 euros. Les pitchounes, 10 000 euros. Maison de la petite enfance, 10 000 euros. Travaux divers logements, 38 500 euros. Autre investissement inscrit en prévisionnel sur ce ROB. Matériel espace vert, 30 000 euros. Matériel garage, dont véhicule et autoporté, 65 000 euros. Achat de matériel divers pour les services municipaux, 4 600 euros. Concernant l'informatique, mise en place du nouveau réseau Internet et Firewall pour 80 000 euros. Serveur de fichiers et sauvegarde hébergé pour 82 000 euros. Numérisation, conseils municipaux en dématérialisé, crise Covid-19, puisque effectivement là, c'est l'élément déclencheur, 15 000 euros. Alarme bâtiment, 4 000 euros. Vidéoprotection, quatrième tranche, 290 800 euros. Refonte téléphonique fixe plus nouvel autocommutateur, 44 000 euros. Interconnexion et modernisation du réseau tout service, 34 200 euros. Socle numérique école, 28 000 euros. Ordinateur, 2 130 euros. Divers points Wi-Fi sécurisés, 4 000 euros. Vous retrouvez en dessous l'alarme bâtiment qui fait doublon avec la ligne qui est tout en haut du tableau. Donc on n'en tire pas compte pour 4 000 euros. C'est une erreur de saisie. Divers petits matériels pour l'ensemble des services, 14 870 euros. À ce stade de la préparation budgétaire, seules les principales demandes en matière d'investissement et les grosses opérations de travaux sont listées. Si à l'issue des reprises de résultats N-1, les sections devaient être rééquilibrées, des arbitrages seront alors demandés. L'ensemble des besoins concernant l'achat de matériel informatique pour les services communaux, la vidéo, le numérique, la téléphonie et l'Internet ont été centralisés sur le service informatique, permettant une meilleure analyse des besoins, mais aussi du coût global et de négociation vis-à-vis des prestataires et de la mise en concurrence. Sur ce volet informatique, la commune n'a pas suivi les évolutions successivement imposées par l'État en matière de modernisation des procédures administratives et de dématérialisation de la chaîne comptable, ni anticipé les besoins de modernisation et d'installation de réseaux Internet performants pour répondre à ces évolutions réglementaires. Aujourd'hui, le constat est tel que la mise en service du logiciel comptable en SaaS, donc en version hébergée, de façon optimale, est risquée par une insuffisance de la puissance du débit Internet existant, au point que les opérations comptables de transfert de flux vers la trésorerie par le service financier sont difficiles lorsque le service ressources humaines est en saisie et transfert de flux de salaire.
Catherine, juste pour rassurer l'Assemblée, le système technique, on démarre en système ce qu'on appelle secours, donc il n'y aura pas de rupture d'information. Tant la comptabilité que les ressources humaines pourront travailler. Il faudra juste adapter certains plannings de telle sorte qu'il n'y ait pas un court-circuitage des informations. Donc, on n'est pas en rupture de service comme nous l'aurions été si nous n'avions pas fait les démarches nécessaires.
Un calendrier sera donc mis en place par les services afin d'organiser les missions du service financier en fonction des besoins du service des ressources humaines, le temps que la nouvelle infrastructure réseau soit opérationnelle. Vous avez un rappel donc sur l'urgence d'engager les travaux de modernisation des réseaux informatiques et Internet, notamment à travers la loi NOTRe et la loi MAPTAM, qui précisait les échéances suivant lesquelles les collectivités territoriales devaient mettre en place la modernisation de l'administration. Par ailleurs, l'obligation de dématérialisation des dossiers d'urbanisme à l'échéance 2022 n'a pas non plus été anticipé, fait partie du chiffrage qui vous a été présenté ci-dessus. Total estimé des investissements pour cet exercice 2021, 4 283 408 euros. À ces projets d'investissement viennent s'ajouter le remboursement du capital de la dette à hauteur de 676 141 euros, le solde différentiel de 203 736,14 euros sur les recettes et restes à réaliser et les dépenses et restes à réaliser. Total estimé des investissements 2021, 5 163 285 euros. Concernant les recettes d'investissement, les subventions et participations d'investissement demandées pour l'année 2021 sont les suivantes. Résultat N-1 reporté, pour le moment, on ne peut pas l'estimer. Comme je vous l'ai expliqué, l'exercice comptable 2020 n'est pas complètement scellé. Donc le compte administratif provisoire sur cette section d'investissement n'est pas arrêté. Subvention DETR vidéo, 252 600 euros. Subvention DETR église première tranche, 150 000 euros. Altera subvention sur réseau électrique, 10 629 euros. Et le FIPD, Mathieu peut-être, sur un dossier qui a été récemment déposé. Puisqu'en commission de finances, effectivement, on a remarqué que le FIPD n'apparaissait pas dans le tableau. Merci, Mme Jules. Voilà, les dépenses liées à cette subvention sont de 46 186,76 euros. À ces subventions viendront s'ajouter 403 545 euros au titre du FCTVA, perçus sur les dépenses d'investissement réalisées en 2019, 36 900 euros de taxes d'aménagement, le virement de la section de fonctionnement qui devrait s'élever à 676 141 euros afin de couvrir l'annuité d'emprunt, les excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur d'1 376 658 euros, là il faut lire 1 046 comme précisé en début de ROB, c'est une erreur de frappe. 368 994 euros au titre des dotations aux amortissements, l'excédent antérieur reporté de 381 838,03 euros, estimé à ce stade de l'arrêt des comptes, un emprunt d'équilibre d'1 506 000 euros pourrait être réalisé dans le cadre de la renégociation des emprunts actuels et être absorbé sur la durée par la baisse des taux négociés par rapport aux taux contractuels initiaux. Rapport d'orientation budgétaire 2021 pour le budget O, budget annexe. Bilan financier de l'année 2020. L'excédent de fonctionnement reporté de 625 281,61 euros. Pour les dépenses, je précise. Les dépenses étaient principalement financées par l'excédent de fonctionnement reporté. 625 281,61 euros. La redevance de l'eau, inscrite à 386 594 euros, mais constatée en réel à 347 610,62 euros. La subvention de l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre du contrat de captage 2020 pour 102 934 euros, mais constatée à hauteur de 60 950 euros. Le total des dépenses 2020 de la section de fonctionnement s'élève à 325 465,59 euros, soit un résultat excédentaire sur l'exercice 2020 de 93 647,15 euros. Là encore, on est sur des résultats provisoires à ce stade de la clôture comptable et des reprises. En section d'investissement, seuls 127 846,47 euros de dépenses ont été réalisées sur cet exercice comptable. Le seuil des dotations aux amortissements étant de 133 975 euros sur l'exercice, il couvre à lui seul les besoins de la section. Les dépenses réalisées sont détaillées comme suit. 26 276,73 euros au titre du remboursement de la part capitale de l'emprunt. 89 718,45 euros au titre de travaux chapitre 21. 1300 euros de travaux pluriannuels au titre du chapitre 23. La section d'investissement affiche un excédent sur l'exercice 2020 de 6 128,81 euros. Soit un total excédentaire de l'exercice 2020 de 99 775,96 euros. Pour l'exercice 2021, la section de fonctionnement devrait ainsi s'élever à 1 108 523,38 euros. Ces chiffres prennent les excédents antérieurs et les résultats cumulés. Ces dépenses seront principalement financées par l'excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 718 928,76 euros, la redevance de l'eau à hauteur de 347 610,62 euros, la subvention de l'agence Eau Seine-Normandie au titre du contrat de captage 2020 de 41 984 euros et un virement à la section d'investissement de 471 503,05 euros. Concernant la section d'investissement, le ROB 2021 affiche un projet de maillage nord pour 562 000 euros. Alors, j'ai maillage nord 562 000 euros pour les travaux réseau à hauteur de 544 et 18 000 euros pour les études. Ces dépenses viendront s'ajouter le remboursement du capital de la dette à hauteur de 29 914,82 euros, un reste à réaliser 2018 de 8 869,03 euros au titre de la réalisation de ce maillage nord et un reste à réaliser 2020 de 3 125 euros au titre de la pose d'une purge, soit un total de reste à réaliser de dépenses de 11 994,03 euros. L'amortissement des subventions d'équipement à hauteur de 10 551,29 euros. Total des dépenses d'investissement 2021, 632 460,14 euros. Concernant les recettes d'investissement 2021, les trois recettes d'investissement prévues en 2021 sont le virement de la section de fonctionnement pour 471 503,05 euros, la dotation aux amortissements pour 133 975,28 euros, un reste à réaliser 2018 qui correspond à une subvention de l'agence de l'eau Seine-Normandie d'un montant de 20 853 euros au titre des compteurs de sectorisation, l'excédent antérieur reporté de 6 128,81 euros.
Tu vas intervenir sur le maillage nord parce que on creuse un peu, c'est ce que tu viens de dire, mais on ne comprend pas trop à quoi ça correspond, sachant qu'il y a de l'eau du côté nord, qu'il y a une jonction qui se fait. Est-ce que c'est un raccordement qu'on sache un peu.
Alors, poser la question à l'ancienne municipalité, pourquoi vous avez financé ce maillage nord, voilà. Enfin, quelle était l'urgence en fait.
Je voudrais revenir sur le total des travaux d'investissement 2021.
On m'a interrogé si ça vous ennuie pas.
Pardon.
Pour dire simplement que le maillage nord est un ouvrage de sécurisation de l'alimentation en eau potable de toutes les habitations et de toutes les entreprises qui sont susceptibles de la zone industrielle et qui peuvent s'installer dans l'archis actipole. Aujourd'hui, il y a une seule conduite d'eau potable qui raccorde ce secteur de Nangis. S'il y avait demain une difficulté importante sur cette conduite, la population de ce secteur-là potable. Donc la raison pour laquelle notre technicien est en ce moment en congé parental, la raison pour laquelle on n'avait peut-être pas toutes les informations, nous a fortement recommandé de procéder à cette sécurisation, effectivement, de l'alimentation. Important parce qu'il faut passer sous la voie ferrée.
Ce qui nous gêne un petit peu sur ce maillage, c'est qu'il y a une partie qui alimente Pactipole, qui se retrouve à la charge des logiciens, alors que ça concerne tous les étudiants.
Voilà. Excusez-moi, on ne va pas faire le débat là-dessus. Ça peut concerner des entreprises et la communauté de communes. Toujours est-il que l'eau potable, c'est de notre compétence. Que vous vous retourniez ensuite vers la communauté de communes pour négocier des participations, là, c'est une possibilité. Mais toujours est-il que les travaux sont à notre charge et sur notre budget.
Ça, c'est parce que vous l'avez décidé ou vous l'aviez décidé ou comment on l'interprète? Parce que c'est quand même un budget de 580 000 euros à la charge des logiciens sur un secteur quand tu as un bonus d'équitation sur l'ensemble du fonctionnement de Mangiac Tipol, ce sera à répartir sur la communauté de communes. Donc est-ce que c'est normal que ce soit les logiciens qui portent? Est-ce que c'est lié à la défense? Est-ce que c'est lié à la défense incendie qui est portée par le CITEP, donc partiellement aussi par d'autres villes? Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir une alimentation complémentaire, sachant que là vous avez dit qu'au niveau des entreprises, il y avait une seule alimentation? Bon, je vous réponds à nous, il y en a deux. Il y en a une qui passe sous la voie de chemin de fer, vous avez raison, principale, mais après elle part en Y, donc il y a bien deux alimentations, sauf s'il y avait une coupure, là vous avez raison, sur la partie voie ferrée. Mais rien ne nous empêche d'imaginer une jonction beaucoup moins coûteuse et qui rendrait le même service pour les logiciens.
Étudier une solution, tout si vous souhaitez.
D'accord. Donc, nous faisons les économies, nous sommes d'accord.
Aujourd'hui, vous savez que nous sommes en train de réaliser les schémas directeurs de l'eau potable et de l'assainissement. Dans le cadre des premières études, ce point de faiblesse est apparu. Nous avons suivi les recommandations des techniciens qui travaillent sur ce sujet, en nous disant, attention, c'est un point de faiblesse, ça peut poser un problème pour les habitants. C'est la même problématique, hein. Il n'y a pas besoin de renforcer aujourd'hui l'apport en eau potable. Il y a le débit suffisant, existant, simplement il s'agit de le sécuriser. Or, passer une conduite effectivement sous voie ferrée, ça a des coûts relativement importants.
Je parle dans le micro pour
se enregistrer. Je veux simplement savoir, est-ce qu'il y a une convention signée avec la communauté commune par rapport à cette maillage blanc? Enfin, voilà, pour aller jusqu'à
l'actuel. Non, il n'y a pas de convention de signée, puisque ce n'est pas l'arrivée de Manchester Tipol qui est à l'origine de cette sécurisation. Voilà, après, si vous voulez ouvrir ce débat avec la commune.
On ne va pas rentrer dans le technique, mais pour maintenir 100 mètres cubes pendant 30 minutes, il faut des sections 150 au niveau des diamètres du tuyau. Pardon, l'odeur, oui, mais quand on fait le cumulé, ça donne à peu près ça. Et aujourd'hui, on est en 110, donc c'est bien une problématique liée à la défense incendie, ce que l'on développe là. Et c'est bien lié probablement à l'engie à Tipol, parce que les riverains sont en 50 et en 110, ils n'ont pas de problème aujourd'hui.
Ça, c'est un problème qui est apparu indépendamment, qui est lié effectivement à la maîtrise d'œuvre de Nangis-Actipol. Mais ça n'a rien à voir avec ce besoin de sécurisation.
D'accord. Merci.
Merci. Je voulais juste faire un petit correctif, page 22, je vous ai annoncé tout à l'heure un total de travaux sous le tableau d'hiver, juste après le projet de maillage nord, à 580 000 euros. En fait, c'est une erreur de frappe, puisqu'on a 544 000 euros sur le maillage nord et on a 18 000 euros d'études, donc on est bien à 562 000 euros dans le bandeau en jaune, et non pas à 580 000 euros. Donc, présentation du rapport d'orientation budgétaire 2021 pour le budget assainissement. Bilan financier de l'année 2021. Les dépenses de fonctionnement réalisées sur l'exercice 2021, sont détaillées comme suit. Le virement à la section d'investissement d'un montant de 110 913,95 euros n'apparaît pas dans le réalisé, c'est normal. 21 223,50 euros au titre des charges à caractère général. 171 679 euros au titre des dotations aux amortissements. 48 691,54 euros au titre des charges financières, remboursement par intérêt de la dette. Les recettes de fonctionnement réalisées sur l'exercice 2020 sont détaillées comme suit. 158 063,42 euros au titre de la redevance d'assainissement qui n'a pas évolué depuis le 1er janvier 2017 et a été maintenue en 2020 à 0,2995 euros hors taxe le mètre cube. 14 256 euros de subvention d'exploitation. 17 187,04 euros au titre des reprises de subventions versées. Le résultat de l'exercice 2020 de la section de fonctionnement est déficitaire de 52 084,95 euros. On peut alors se poser la question de la pertinence du virement de 63 952,70 euros. Erreur de frappe, hein, il y a marqué 0,07. De la section de fonctionnement vers la section d'investissement. En effet, 171 679 euros issus d'opérations d'ordre de section à section au titre des dotations d'amortissement peuvent également servir d'équilibre de couverture d'emprunt pour le remboursement de la part capitale. Les recettes d'investissement réalisées sur l'exercice 2020 sont détaillées comme suit. Le virement de la section de fonctionnement d'un montant de 110 913,95 euros n'apparaît pas dans le réalisé. 171 679 euros au titre des dotations aux amortissements. 63 952,73 euros au titre de l'excédent de fonctionnement capitalisé. 75 000 euros au titre du versement d'un emprunt. Les dépenses d'investissement réalisées en 2020 sont détaillées comme suit. 17 187,04 euros au titre de la reprise de sur subvention versée. 122 946,66 euros au titre du remboursement de la part capitale de la dette. 27 011,41 euros au titre de travaux. Le budget 2021 pour la section de fonctionnement. Les dépenses de charges à caractère général pour l'exercice 2021 affichent une demande à hauteur de 43 000 euros. Les recettes de fonctionnement liées à la redevance d'assainissement s'élèvent à 155 000 euros. Un rappel de 2019 sur la prime d'épuration a été notifié le 23 décembre 2020 pour un montant de 55 285 euros. Ces recettes couvrent les besoins de la section de fonctionnement ainsi que le déficit 2020 de 52 084,95 euros. Au moment de la rédaction du ROB, en dépenses d'investissement, seuls 9 186,31 euros sont inscrits au titre de report de 2020. Nous n'avions pas les demandes formulées pour l'exercice 2021. Nous les avons reçues depuis et vous en aurez le détail lors du vote du budget. L'annuité de la dette pour l'exercice 2020 sera de 151 369,10 euros. Page 25, vous trouvez le rapport d'orientation budgétaire de la Caisse des écoles qui reste à titre indicatif et ne sera pas présenté puisqu'il s'agit d'un budget à part entière qui fera l'objet d'un vote lors de l'instance qui concerne ce budget. Page 28. Rapport d'orientation budgétaire 2021, centre aquatique. Bilan financier 2020. L'excédent de fonctionnement reporté sur ce budget en 2020 était de 40 909,19 euros, tandis que le résultat provisoire de l'exercice 2020 affiche à ce jour un résultat de 25 131,06 euros. Le confinement du premier trimestre 2020 peut en partie expliquer la baisse des recettes liées à la vente d'entrées sur la structure. Néanmoins, une étude sur les dépenses de ce budget semble indispensable. Par ailleurs, à ce stade de la clôture comptable, le versement de la subvention annuelle communale n'est pas constaté. Les dépenses de fonctionnement sont détaillées comme suit. 262 347,61 € au titre des charges à caractère général. 25 200 € au titre du virement de la section d'investissement. Les recettes de fonctionnement sont détaillées comme suit. 40 909,19 € au titre de la reprise de résultat N-1. 94 429,37 € au titre des produits et services. 209 070,81 € au titre des subventions exceptionnelles. Les dépenses d'investissement sont détaillées comme suit. 39 284,03 € au titre de la reprise du déficit de l'exercice N-1. 6 806,70 € au titre de travaux au chapitre 21. 2 151 au titre d'achat de matériel au chapitre 21. Les recettes d'investissement sont détaillées comme suit. 25 200 € au titre du virement de la section de fonctionnement. 39 284,03 € au titre de l'excédent de fonctionnement capitalisé. On constate un virement de la section de fonctionnement de 25 200 €. Or, les besoins réels de la section afin d'équilibrer les dépenses d'investissement n'étaient que de 8 957,70 €. Ce qui contribue à la baisse du résultat de la section de fonctionnement. Pour 2021, concernant la section de fonctionnement, dans un souci de maîtrise budgétaire, le budget Aqualud devra en 2021 faire l'objet d'un suivi rigoureux, permettant ainsi de maintenir un niveau de dépenses raisonnable en adéquation avec le niveau de recettes constaté au chapitre 70. En cette période de crise sanitaire, les dépenses en 12e sur l'ensemble de la section de fonctionnement hors charges incompressibles restent la meilleure façon d'appréhender la maîtrise budgétaire. Pour la section d'investissement, les possibilités d'investissement 2021 seront appréciées en fonction de la capacité d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement. Présentation du rapport d'orientation budgétaire 2020 pour les activités culturelles, budget annexe. Bilan financier de l'année 2020. Section de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement réalisées sur l'exercice 2020 sont détaillées comme suit. 222 576,60 € au titre des charges à caractère général. 3 167,63 € au titre des charges de personnel. 45 650 € au titre du virement à la section d'investissement. 420,48 € au titre des charges exceptionnelles. Concernant les recettes de fonctionnement réalisées sur l'exercice 2020, 76 788,15 € au titre du chapitre 002 en reprise de résultats excédentaires N-1. 19 707,59 € au titre du chapitre 70 des produits de service. 34 429,04 € au titre des dotations et participations. 592,91 € au titre des autres produits de gestion courante. 286 068,85 € au titre du chapitre 77 en produits exceptionnels, comprenant également le versement de la subvention communale à hauteur de 271 068,85 €. La section de fonctionnement affiche un résultat provisoire positif de 99 648,68 €. Les dépenses d'investissement réalisées sur l'exercice 2020 sont détaillées comme suit. 39 300,51 € au titre de la reprise du solde négatif de la section d'investissement en N-1. 9 138,74 euros au titre du chapitre 21 en travaux d'agencement. Concernant les recettes d'investissement réalisées en 2020, 45 650 euros au titre du virement de la section de fonctionnement, 44 259,28 euros au titre d'une partie de l'excédent de fonctionnement capitalisé. La section d'investissement affiche un résultat provisoire négatif de 4 199,97 euros. Concernant l'exercice 2021, une réflexion est actuellement menée sur le secteur de la culture pour diversifier les compétences du service et de ses activités. Plusieurs démarches pour obtenir de nouveaux financements ont été menées par le service culturel. Concernant la section de fonctionnement, comme d'autres secteurs d'activité directement impactés par la crise sanitaire de la Covid-19, le budget activité culturelle va devoir faire face à une grande maîtrise des dépenses de gestion qui devra s'adapter au rythme des recettes constatées. À ce jour, la section de fonctionnement représente plus de 400 000 euros, dont 271 068,68 euros de subvention communale. La section d'investissement du budget d'activité culturelle est autofinancée par sa section de financement. À ce titre, le niveau d'investissement pour 2021 devra tenir compte de la capacité d'autofinancement du budget comme principale ligne d'arbitrage, hors subvention extérieure. Rapport d'orientation budgétaire pour le budget annexe Saint-Antoine. Alors c'est un tout petit budget. C'est un budget qui n'appelle aucune explication particulière. Il s'agit d'une opération blanche pour la collectivité. Dans le cadre de l'installation de notre prestataire eau assainissement, un local a été construit par la SCI Nangis-Landis. La collectivité règle les loyers des locaux occupés par Veolia. Cette société nous rembourse le montant des loyers. En 2020, les loyers s'élevaient à 92 609,30 euros. Pour l'exercice 2021, les loyers sont calculés à hauteur de 92 916,36 euros. Merci.
Merci à vous, Madame Lagré. Moi, je tiens particulièrement à saluer votre travail, celui de votre service et des différents services qui ont contribué à ce rapport, et en soulignant que vous n'êtes pas encore à temps complet à la mairie de Nangis. Donc vraiment, merci pour la qualité de ce travail.
Merci, Mme Lagré.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
Bienvenue à vous, Madame Lagré. J'espère que vous êtes de mal à votre poste. Je suis le meilleur du monde. Bien évidemment, j'ai quelques questions quand même à vous poser, puisque je ne reviens pas évidemment sur la première partie du rapport des orientations budgétaires. C'est le contexte national, international. On a tout ça sur tous les documents, style à l'IMF. Autre concernant le budget communal, j'ai effectivement quelques interrogations. Alors, j'ai déjà une précision à vous dire, puisque ça fait déjà plusieurs fois que j'entends dire qu'on a oublié de titrer la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, je vous rappelle quand même que les recettes de ce genre ne se titrent pas évidemment au 1er janvier de chaque année, mais se titrent au fur et à mesure de l'avancement des dossiers et surtout de la disponibilité aussi des agents. Je vous rappelle également que l'année dernière, en 2020, votre directeur financier s'était vu confiné, malgré tout travailler en télétravail, mais il s'est vu confiné 2 mois en province. Les 4 agents qui restaient ont tous travaillé en quart temps, en présentiel, mais en quart temps. Donc elles ont fait au mieux, évidemment. Et de toute façon, concernant cette taxe locale de publicité extérieure, nous avions, nous, envisagé quand même de nous positionner à l'époque, enfin, du moins de nous poser la question, car une ordonnance du 22 avril 2020 avait permis aux collectivités locales, éventuellement, de prendre une délibération et donc de prendre une décision pour abattre, afin de ne pas trop surtaxer les commerces et les artisans qui, malheureusement, encore subissent des crises financières, économiques importantes, donc avait permis éventuellement aux collectivités locales de se positionner sur un abattement éventuel. Donc effectivement, entre les agents qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu titrer, et puis cette décision qui n'a pas été prise, voilà où on en est. Mais de toute façon, toutes ces recettes, quelles qu'elles soient, hein, droit de place, tout ce que vous voulez, ce sont des recettes qui sont liquidées par l'ordonnateur, donc par le maire, celui de son service financier, et qui ensuite sont recouvrées par les services fiscaux, donc par notre trésorerie principale, à l'époque, qui était Longines, maintenant c'est Provins, et en tout état de cause, ces recettes, elles sont comme toutes les recettes fiscales, hein, elles sont susceptibles d'être atteintes que par la déchéance quadriennale. Donc si on ne le fait pas en 2020, on peut le faire jusqu'au 31 décembre 2024, à la limite. Hein, voilà. Déjà pour bien cibler la chose. Alors, les droits de place, après vous me parlez des droits de place qui n'auraient été titrés que pour 30,10 €. Les droits de place, ce n'est pas le marché forain. Hein. Le marché forain, ce n'est pas nous qui avons pris sur les droits de place, c'est le concessionnaire. C'est le délégataire, pardon. Donc, les droits de place, en l'occurrence, c'est les marchés de Noël, c'est les brocantes, évidemment, qui n'ont brocantes qui n'a pas eu. Bon, effectivement, si vous prévoyez 2575, cela veut dire que la brocante sera ouverte, que le marché de Noël va redynamiser un petit peu le secteur marchand de cette période festive, etc. Mais en aucun cas, le droit de place, c'est le marché. Alors, ensuite de ça, ah oui, je suis très contente d'ailleurs, parce qu'en page 10, quand même, on reconnaît enfin que la ville a perdu 3 600 000 € de... il y a eu des pertes cumulées de DGF depuis 2013, et ça c'est vrai, depuis le temps qu'on le disait et qu'on le ressassait, enfin vous reconnaissez que nous avons perdu 3 600 000. Moi j'avoue que j'étais restée au 31 décembre 2018, je m'en étais arrêtée là, parce que c'était vraiment déjà beaucoup à l'époque, hein, c'était déjà plus de 2 millions. Alors, ensuite de ça, toujours sur la page 10, vous dites la dotation compensation TP, taxe professionnelle. Vous dites que vous allez remettre les mêmes recettes que sur l'année 2020. Donc il faut mettre en 2021 pour cette dotation compensation la même somme, 552 329. Parce que même si vous avez rattaché un petit bout de recette que vous n'avez pas perçu sur un P503 de la part des services fiscaux, vous l'avez rattaché. Donc ça a créé automatiquement un mandat annulatif sur l'année 2021. Et quand vous allez titrer cette petite somme-là, ça va annuler l'effet. Donc de toute façon, vous remettez la somme de 552 329 € sur les prévisions budgétaires 2021. Si vous le faites pour les deux premières lignes et les trois suivantes, il faut le faire pour satisfaire. Alors, après, dans les produits des services, page 11, vous nous indiquez pas mal de petites recettes, qui sont bien, mais par contre, vous occultez complètement le FCTVA. Je rappelle quand même que depuis 2016, le FCTVA est perçu également sur les dépenses de fonctionnement. Alors, toujours en N-2 hein, pour la commune de Longines, mais on l'aperçoit quand même, donc il faut également la calculer et porter cette somme-là. Elle n'est pas négligeable, hein. Important. C'est sur le FCTVA, c'est sur les dépenses d'entretien, mais pas les contrats de maintenance, mais les dépenses d'entretien des bâtiments, des voiries, etc. Donc c'est important. Alors, l'excédent antérieur reporté de fonctionnement devrait s'élever à 1 043 566. Alors, là, c'est pas la bonne formulation, hein, je suis désolée. L'excédent antérieur reporté, vous ne pourrez prendre ce terme-là que lorsque l'on aura voté le compte administratif et qu'on aura fait l'affectation du résultat et qu'on aura reporté ce résultat au budget 2021. Pour l'instant, c'est juste un excédent. Et ce que je voudrais savoir par contre, si c'est un excédent d'exercice ou un excédent de clôture, c'est différent. L'excédent d'exercice, c'est dépenses moins recettes de l'année 2021. L'excédent de clôture, on y ajoute l'excédent reporté de l'année 2019.
Oui, non, on n'en est pas à ce stade-là. Pour l'instant, c'est vraiment l'excédent calculé sur l'exercice 2020.
Donc, c'est l'excédent d'exercice. Voilà. D'accord. Donc, on le reverra après, mais de cet excédent d'exercice, donc il faudra de toute façon déduire les 203 736 euros qui seront obligatoires pour équilibrer la section d'investissement au titre de l'autofinancement, ce qu'on appelait avant 1997 l'autofinancement et qui se retrouve maintenant être tout simplement du fonctionnement capitalisé, des réserves plus exactement. Donc, l'autofinancement. Par contre, ce que je ne vois pas, et là j'en suis vraiment fort contrite, je vous rappelle, monsieur Lancel, je vous avais interpellé au mois de novembre lors du conseil, je ne voyais pas, je vous avais demandé s'il y avait un conseil avant le 31 décembre, à la limite on aurait pu le faire avant le 31 janvier, donc ni en décembre ni en janvier j'ai vu cette délibération paraître, mais il y avait malheureusement la possibilité de réinjecter des dépenses Covid et pouvoir les amortir. C'était une possibilité qu'avait rendu le ministère des Finances pour ne pas perdre cette trésorerie, parce que c'est pas une trésorerie, mais cette trésorerie fictive en quelque sorte. Et c'était très important puisqu'on en avait discuté effectivement lors de ce conseil. Vous aviez effectivement vous aviez confirmé qu'il y avait entre 120 et 150 000 euros de dépenses Covid à l'époque, en tout cas pour les sommes où j'en étais resté moi à l'époque. Donc c'est dommage, parce qu'on perd quand même encore de la capacité d'autofinancement, parce que même si on amortit maximal sur 5 ans, on avait quand même un peu d'argent là, qui nous revenait dans les caisses. Alors ensuite, page 12, vous me mettez que le CA provisoire de 2020, entre donc vous indiquez les dépenses réelles de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement, moi je vois qu'il y a un delta de 1 791 721. C'est pas tout ce qui va apparaître après dans votre, plus loin dans les pages ultérieures. Et par contre, en dépenses, en section d'investissement, vous me dites qu'il y a des dépenses réelles pour 1 488 000 et des recettes 1 522 000. Donc là par contre on a un excédent d'investissement de 33 683. Donc automatiquement cet excédent d'investissement va diminuer notre déficit de restes à réaliser, donc notre besoin d'autofinancement ne sera pas de 203 000, mais sera de la différence 170 000. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Alors, vous mettez qu'une étude de réaménagement de la dette permettant une baisse du montant des intérêts remboursés sur l'exercice 2021 est en cours d'étude. Non, vous ne pourrez pas rembourser, vous ne pourrez pas faire ceci en 2021, on perd un an. Nous, on avait commencé déjà à interroger à l'époque, et ça aussi je vous l'avais dit d'ailleurs, on avait commencé à prévoir un emprunt. Alors, vous l'avez réduit à 600 000 euros, on avait mis 1 million, mais c'était justement dans l'optique de pouvoir renégocier les emprunts, certains emprunts, en même temps, ce qui permettait effectivement d'avoir une opération un peu plus étalée, une CAF protégée. Au mieux les intérêts à rembourser, ça ne sera pas en 2020. Voilà, au mieux la renégociation ne sera pas en 2021, ça sera en 2022. Il faut toujours que nos renégociations soient faites au 1er janvier de l'année. Ça se mettrait fort que les banques acceptent de faire une renégociation comme ça au coup par coup. Alors. Dans l'actif de la dette de l'emprunt de 2 millions d'euros, oui, vous me mettez que la capacité de désendettement passe de 10,1 années à 10,8 années. Oui, alors je vous rappelle quand même que le seuil de vigilance n'est évidemment pas dépassé, puisqu'on est le seuil critique, c'est 12 ans. Il ne faut pas non plus ajouter la population comme ça. Il y a des termes des fois qui ne sont pas très bien choisis.
Juste un petit point de vue de strates similaires ou autres, c'est entre 5 et 6 ans. C'est-à-dire qu'on est quasiment...
Monsieur Lancel, on ne peut pas... Une strate démographique ne veut rien dire. Il faut prendre vraiment les villes qui sont en relation avec Montgis, qui sont en rapport avec Montgis, c'est-à-dire qui ont les mêmes infrastructures, les mêmes services à la population. Une commune de 8 000 habitants en Seine-et-Marne qui correspond vraiment à Montgis, à mon avis, il y a que la Ferté-sous-Jouarre, qui correspond vraiment... Et vous verrez que... Les capacités de désendettement sont tout à fait différentes et que les ratios, je dirais, entre le fonctionnement, les recettes de fonctionnement, le rapport à la population est complètement différent aussi.
Mais l'état de la ville n'est pas forcément le même que celui de la Ferté-sous-Jouarre, bien Galuchet.
Pardon ?
Et les investissements qu'on a à faire demain, on a quand même 10 millions d'aides quasiment aujourd'hui, avec lesquels on va devoir faire affaire. Alors j'entends ce que vous me dites, mais de l'autre côté, comparer des revenus ou des recettes face à un état des lieux. Oui, j'entends qu'on a des services, mais quand on est 10 dans une famille et qu'on a 1 000 euros ou 2 000 euros et qu'on est 2 et qu'on gagne la même somme, on n'a pas le même reste à vivre. Alors, on a beaucoup de services, c'est vrai, mais derrière, les banques, quand elles veulent prêter, elles regardent effectivement notre situation. Donc, vous pouvez leur dire qu'on a beaucoup de services, vous avez raison, mais elles s'en moquent, parce que ce qui les intéresse, c'est comment on va payer.
Oui, jusqu'à présent, ça n'a pas posé de soucis.
Là, bah, si manifestement, si, parce que 7%, c'est la limite. Oui, on parlait des 10 ans,
d'où l'obligation, encore une fois, de renégocier les dettes.
Et pourquoi ça n'a pas été fait en 2015, alors qu'il y avait des fenêtres, justement, à l'époque, avec Dexia, pour pouvoir...
Non, pas du tout. Il y a eu des renégociations de dettes qui ont été faites déjà avant l'équipe de la main, avant l'équipe de M. Delannoy. On y en a déjà eu une fête en 2004, on a eu une fête donc, après avec lui. En 2014, c'était absolument impossible. Compte
2015,
tenu...
2015.
Alors, compte tenu, alors déjà, hein, parce que vos deux, les deux emprunts enfin, Dexia. Voilà, tout à fait. Jamais on était autorisé à retenir la renégociation et le refinancement de ces dettes.
Pourquoi?
Il n'y a qu'un. Parce que c'était absolument impossible. Il ne voulait pas renégocier. Ça, c'est clair et net. Ensuite de ça, là, au premier trimestre 2020, quand j'ai de nouveau réinterrogé les banques, la SFIL a répondu, OK, pour ces deux emprunts-là, pas trois. Il y avait trois total.
Pour un coût de combien en pénalité?
Très honnêtement, je n'ai plus de chiffres en tête.
1 200 000.
Oui, forcément, obligatoirement.
Je dis simplement qu'en 2015, il y avait des fenêtres pour renégocier et vous pourrez...
Non, la SFIL ne voulait pas à l'époque. Ah non, mais ça, j'en ai... Persuadé.
Juste, si je peux me permettre, oui, cette question des 10 ans pour rembourser nos dettes, elle ne se poserait pas si l'état du patrimoine de la ville était bon. Parce que être endetté, ça peut être une bonne chose. Chacun d'entre nous s'endette pour acheter sa résidence principale. Là, le problème, c'est que la ville est endettée et que dans le même temps, je vais... Les choses qu'on dit toujours, mais les toitures de nos écoles, l'état de nos routes, c'est là qu'il est le drame pour la ville. C'est que oui, nous sommes endettés, mais en plus, nous avons un patrimoine très dégradé. C'est bien ça le souci. Ça n'est pas l'endettement en soi. C'est le rapport entre l'état d'endettement et l'état du patrimoine de la ville.
Il y a des écoles neuves.
Pardon, madame Galochet, une école neuve. Je vous invite à aller à l'école des Roches un jour où il pleut, s'il vous plaît. Vous verrez, quand vous rentrez, sur la gauche, à chaque fenêtre, il y a un seau. Et sur la droite, s'ils ne sont pas bien équipés, ils n'ont pas forcément les serpillères pour éponger les flaques. Bon, pourquoi? Parce que vous le savez très bien, l'école des Roches, pas de garantie décennale, etc. Donc ne parlez pas d'école neuve, s'il vous plaît.
On va copier. C'est pas le débat.
Donc si on rentre dans l'état du patrimoine de Montgis, on a commencé, bien, ça fait 6-7-8 mois qu'on est là. Les constats, vous les avez vus dans le premier Montgis Mag à l'époque. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Vous connaissez tous l'état de la ville.
Il nous manque effectivement plus de 3 millions d'euros dans les caisses.
Cumulés sur votre présence.
C'est pas de faute, là. Non.
Non, mais on ne vous dit pas qu'il n'y a pas eu des baisses de dotation, mais comment ont fait les autres villes? Comment a fait la Ferté-sous-Jouarre? Comment ont-ils fait? Ah oui.
Alors, donc, après, nous allons avancer si vous voulez. La nullité de la dette. Alors, vous, à un moment donné, vous mettez que l'amortissement du capital de l'immense majorité des emprunts souscrits par la ville est progressif. Non, c'est pas ça, hein. Un taux progressif, c'est pas ça. Hein. Là, ce n'est pas un emprunt progressif. Les taux sont constants. Après, il y a effectivement une démarche entre le montant des intérêts et l'évolution des intérêts et l'évolution du capital.
Mais et l'amortissement.
Oui, tout à fait. Mais un emprunt progressif, c'est pas ça. Un taux progressif, c'est pas ça. Vous mettez que les restes à réaliser donc correspondent. Ça c'est page 16, correspond aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2020 et aux recettes, etc. Ils sont constatés au compte administratif provisoire à ce jour. Ils sont repris à l'identique dans le budget primitif 2021 avec le rapport. Mais par contre, là, c'est là que ça me pose un souci, parce que vous aviez quand même, on avait budgété en décembre 2020 la vidéoprojection et la DETR. Donc, ils sont compris dans les restes à réaliser ou pas? Parce que du coup, vous les remettez en nouvelles dépenses d'investissement un peu plus loin. J'avoue que je n'ai pas trop compris si ces montants étaient dans les restes à réaliser. Éclairer peut-être un petit peu la situation. Dans les dépenses d'investissement, on ne fait pas effectivement l'église que pour 191 700 euros. Vous nous inscrivez au budget une somme de 3 millions d'euros. Voilà, et en informatique, c'est là hein, où je revois en informatique, page 17, la vidéoprotection, quatrième tranche, mais effectivement, elle avait été quand même prévue sur le budget 2020. C'est même donc la DETR que l'on retrouve plus loin. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter des précisions à ce sujet-là. Ensuite, page 18. Alors là, j'avoue que je me pose des questions. La commune n'a pas suivi les évolutions successivement imposées par l'État en matière de modernisation des procédures administratives et de dématérialisation de la chaîne comptable. Alors là, il va falloir m'expliquer ce qui n'est pas dématérialisé au service financier, parce que jusqu'au 30 juin que j'ai signé en signature électronique, tout était dématérialisé en TP, que ce soit les flux comptables, les budgets, les décisions modificatives, etc. Donc, y aurait-il autre chose que je ne connaîtrais pas?
Il semblerait, oui, effectivement, puisque les signatures sont dématérialisées, soit les bordereaux seront dématérialisés, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, toute la base fournisseur, toute la base contrat, toute la base marché n'était absolument pas dématérialisée, n'est absolument pas rentré dans le logiciel comptable. Aujourd'hui, on peut mandater une facture sur contrat, une facture sur marché, sans que les PJ, sans que les pièces justificatives de ces contrats et de ces marchés basculent dans le flux informatisé en trésorerie, parce que Max Compta n'est pas capable de le faire.
Ah oui, pourquoi Max Compta n'est pas capable.
Sauf que l'obligation, elle date d'il y a plusieurs années déjà.
Jusqu'à présent, il rattachait les pièces, il rattachait les marchés.
Il rattachait le numéro de marché,
non.
Les actes d'engagement,
oui, mais c'est tout ce qu'on
pas la totalité des pièces marché, puisque Max Compta n'est pas capable de supporter les flux comptables.
Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Il vous faut le... En matière de marché, vous envoyez votre acte d'engagement et puis les actes de sous-traitance.
Aujourd'hui,
les DGD, mais autrement, vous envoyez rarement l'ensemble des marchés. De toute façon, la trésorerie ne le prend pas.
Non, mais le souci n'est pas là. C'est au jour d'aujourd'hui, les factures rattachées à des marchés ou des contrats partent avec des références marchés en face, des pièces marchés qui ne sont pas entièrement dématérialisées, elles n'y sont pas toutes, puisqu'on les rajoute en PJ rajouté au fur et à mesure que la trésorerie nous les demande, puisque le logiciel comptable ne peut pas les gérer autrement.
Oui, les incrémenter, je comprends bien, mais on les fait en... Voilà, on escale et puis c'est scalé et puis c'est joué après.
Mais c'est du bricolage, c'est pas de la comptabilité.
Non, c'est pas du bricolage. Il y a beaucoup de villes qui fonctionnent comme ça avec des pièces.
Aujourd'hui, le logiciel comptable n'est pas capable de vous sortir l'état d'un contrat ou l'état d'un marché avec le réalisé, l'engagé, l'avancement. il est absolument pas suivi. Les contrats, les marchés ne se cumulent pas, aucun suivi ne se fait, aucun cumul d'engagement, aucun cumul de marché sur aucun contrat, aucun marché. Preuve en est, quand on rentre dans la table des marchés et des contrats, les dates de début, les dates de fin ne sont même pas renseignées.
Et de toute façon, un suivi de marché, à la limite, même s'il ne se fait pas de façon dématérialisée, parce que ce n'est pas une obligation, vous avez systématiquement des certificats de paiement qui sont produits à la trésorerie à chaque fois que vous payez une facture.
La dématérialisation des marchés, madame, est obligatoire maintenant.
La dématérialisation des marchés.
Y compris dans la chaîne comptable. Y compris dans la chaîne comptable.
Oui.
Le logiciel ne sait pas la gérer. Il n'est pas capable de le faire.
C'est pas 100%, c'est pas 99% du travail du service financier.
Peu importe, on est hors réglementation.
D'une manière ou d'une autre, on a été contraint de changer l'outil comptable. C'est pas nous qui l'avons inventé. Vous avez reçu des courriers
de
l'ancienne municipalité depuis des années où on vous disait.
Des années, madame.
Vous savez, on a le papier qu'on avait montré lors du premier ou deuxième conseil municipal. On était à 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a une alerte. Je pense que 5 ans, on a le temps de se retourner. On a dû changer parce qu'il n'y avait pas de plus de maintenance à partir du 31 décembre 2020. On ne l'a pas voulu, on ne l'a pas souhaité, on l'a subi. Il y avait un budget qui était prévu pour passer sous Cyril, avec un budget qui était arrêté à cause de la Covid. Ça aurait dû être fait, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est bien un héritage de cette situation. Et l'outil n'a pas suivi parce qu'il n'était pas capable de le faire.
Absolument,
techniquement, ce n'était pas bon.
Il faut dire que l'outil n'était pas en dehors de la dématérialisation de l'agent comptable. Les marchés, encore une fois, un suivi de marché, c'est 5% du travail. Alors, ensuite, nous avons page 19. Vous m'indiquez que le projet d'investissement vient de s'ajouter. Alors, le solde différentiel de 203 736 restes à réaliser, non. Ce n'est pas une nouvelle dépense, ça. C'est après l'affectation des résultats, c'est tout simplement l'autofinancement. Ce n'est pas une nouvelle dépense. Quand on aura voté le compte administratif, qu'on aura fait l'affectation des dépenses, on aura effectivement l'autofinancement qui viendra incrémenter, qui viendra équilibrer la section d'investissement. Mais ce n'est pas une nouvelle dépense.
Absolument.
D'accord.
C'est juste le delta entre les recettes et les dépenses. C'était juste pour imager le solde résiduel.
Alors, en plus, ce n'est pas 230 000. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quand même déjà l'excédent d'investissement qui va venir le réduire. Le besoin d'autofinancement, on est bien d'accord.
Oui, complètement. Mais là, voilà. C'était juste le solde des RAR, rien d'autre.
Oui, mais il ne faut pas mettre en nouvelle dépense. Ça fausse un peu. Alors, ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé du FIPD. Le FIPD, il est sur quoi? Dans les recettes d'investissement. Vous avez interpellé monsieur.
Sur l'école des Roches?
Ah, je ne sais pas. Vous avez dit, et le FIPD, il est de combien? Il serait 34 000 euros. Mais vous l'avez demandé sur quoi, le FIPD?
Sur la sécurisation de l'école des Roches.
D'accord.
La nouvelle école toute neuve, il faut qu'on la sécurise avec un ensemble de protection de tout
sûr. D'accord. Alors, sur les recettes d'investissement, je voudrais remettre quelque chose à niveau, parce que Madame Lagoutte, je n'ai pas pu aller à la commission des finances, hein, Madame Lagoutte m'a rapporté que vous aviez indiqué qu'au niveau du FCTVA, plus jamais il y aurait de chapitre 23 ouvert, parce que vous ne pouvez pas prendre le FCTVA sur, vous ne pouvez pas récupérer le FCTVA sur le chapitre 23.
Alors, c'est pas tout à fait expliqué. C'est pas tout à fait exact. On peut récupérer le FCTVA quand une dépense est effectuée au chapitre 23, une fois que la dépense est intégrée au 21. Donc l'intégration de la dépense est faite.
Non. Non plus maintenant, plus depuis 2016. Avant 2016, vous aviez effectivement la possibilité de récupérer sur le chapitre 23 lorsque on remplissait l'annexe 1 à l'état 1B. Et depuis 2016, depuis effectivement les nouveaux processus de récupération du FCTVA, vous donnez tout simplement votre chapitre 23. 2023, vous l'indiquiez, en tant que dépense réelle, une dépense réelle, hein, même si elle n'est pas intégrée.
Complètement.
Et puis vous êtes remboursé du FCTVA sans souci. Hein,
alors,
souci.
Depuis le 1er janvier 2018, la préfecture.
Ah non, je l'ai appelé. Ne mettez pas la préfecture. Non, parce que je me suis quand même demandé, je me suis posé des questions.
Alors, excusez-moi, mais ne peut être éligible au FCTVA au jour d'aujourd'hui que les dépenses d'investissement qui apparaissent dans les états d'amortissement. Expliquez-moi comment vous amortissez au chapitre 23, puisque ce n'est pas intégré.
Mais les travaux ne sont pas, les immeubles ne sont pas amortis. Que ce soit sur
on parle des travaux au chapitre 23. Oui. Les travaux inscrits au chapitre 23, travaux en cours, tant qu'ils ne sont pas amortis, tant qu'ils ne sont pas rentrés au 0,40 et 0,42 en amortissement, ne peuvent être. Et bien justement, tant que ça n'apparaît pas en amortissement au 0,42 et 0,40, on n'est plus éligible.
Mais non, ce sont des opérations budgétaires, vos intégrations.
C'est ce que je vous explique, madame. Voilà. Les travaux dépensés sur le chapitre 23 n'étant pas rentrés en amortissement au 21, en imputation définitive dans les tableaux d'amortissement, ne peuvent plus et ne sont plus éligibles au FCTVA. Seuls les travaux intégrés en amortissement sur les chapitres définitifs 21 peuvent être soumis à la demande de versement du FCTVA. C'est pourquoi le chapitre 23 disparaît dans les collectivités, y compris sur les travaux pluriannuels, où on lance des OS et des bons de commande au fur et à mesure du déroulement des travaux.
On va faire un débat technique, mais revoyez les services de l'État, là je vous assure que vous vous trompez. Il ne peut pas y avoir d'amortissement au chapitre 21, vous n'amortissez pas un immeuble, on n'amortit pas un immeuble, on
amortit. Parlez de travaux, madame.
Oui.
23. Oui. Vous n'achetez pas l'immeuble au 23, vous l'achetez au 21. Oui. Donc là, on parle de travaux. L'amortir.
Vous me dites qu'après, il faut que ce soit mis au chapitre 21 et qu'il soit dans le tableau des amortissements.
Vous ne faites pas de travaux 21-35 ? Agencement. Agencement construction 21-35. Oui. Et alors, les travaux du 23-13 ou les travaux du 23-15, une fois intégrés au 21, sont amortissables et on peut récupérer la TVA dessus.
Alors écoutez, revoyez les services de l'État parce que là vous faites c'est fou. Alors après, nous avons donc le virement de la section d'investissement qui devrait s'élever à 676 000. Voilà, les excédents de fonctionnement capitalisés, donc 1 043 000, toujours en recette d'investissement. Donc, vous mettez ensuite pour équilibrer la section de fonctionnement. Une section de fonctionnement, elle est automatiquement en suréquilibre. Si vous êtes en déséquilibre, c'est très ennuyeux, en déficit. Voilà, ça c'est déjà pas. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre cette phrase. Sauf si besoin d'ajustement pour équilibrer la section de fonctionnement. Équilibrer la section de fonctionnement.
Vous êtes sur quelle page, s'il vous plaît?
Toujours sur la page 19 et toujours sur les recettes d'investissement.
Oui, tout à fait. D'accord. La parenthèse. Sauf si besoin d'ajustement. Mais oui, effectivement, l'excédent de fonctionnement ne pourrait être capitalisé et reversé à la section d'investissement que en totalité si la section de fonctionnement n'avait pas besoin de garder une partie de cet excédent pour s'équilibrer. Le budget n'étant pas finalisé à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas spéculer sur l'affectation complète ou pas du résultat de la section de fonctionnement vers la section d'investissement.
Donc vous pouvez pas,
des arbitrages qu'on fait.
D'accord.
Donc ensuite,
vous ne pouvez pas pour le moment aller au-delà de ce que vous demande de virer à la section d'investissement le budget prévisionnel de 2020. Mais vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire moins, mais vous ne pouvez pas faire plus. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez faire moins. Vous pouvez toujours laisser tomber le reste de la réalité dépenses ou recettes. On est d'accord. Et dans le cas-là, c'est pas. La finalité, ce n'est pas d'équilibrer le budget de fonctionnement. C'est de pouvoir permettre le virement à la section d'investissement.
Non, mais ça,
sans
tout à fait.
Sans impacter votre section de fonctionnement.
Tout à fait.
C'est bien ce que je dis, on n'équilibre pas votre section de fonctionnement.
Je regrette vraiment que vous n'ayez pas été présent dans la commission des finances. Parce que là, de la technique, c'est
mais je ne crois pas que la commission des finances vous ayez présenté ce genre de choses.
complètement, dans l'intégrité.
Oui, de toute façon, la section, oui, de toute manière, monsieur Lancel, vous pensez bien que la commission des finances, on prend acte, et puis on ne débat pas de ce genre de choses, parce qu'on ne va pas assez dans les détails.
C'est le but de la commission des finances, je suis surpris que...
Non, en une heure de temps, on ne peut pas...
Pour pouvoir les corriger pour la présentation en séance.
Oui, enfin, pour une heure de temps, on ne peut pas regarder tout ça. Vous savez, là,
Il y a une heure de début, il n'y a pas une heure de temps.
Alors, ensuite de ça, oui, alors, donc, je reviens quand même sur vos indemnités de remboursement anticipé d'anticiper, là. Vous mettez qu'un emprunt d'équilibre d'un 1 506 000 euros qui pourrait être réalisé dans le cadre de la renégociation des emprunts actuels et absorbés sur la durée par la baisse des taux négociés par rapport aux taux contractuels initiaux. Oui, mais alors, quid de l'IRA ? Comment sera-t-elle absorbée ? Parce qu'il y aura automatiquement une indemnité de remboursement par anticipation de l'un ou de plusieurs de ces emprunts.
Eh bien, nous allons simplement stocker cette, ce capital. On va isoler un emprunt. Et à travers la capacité de refinancement qui va être générée par ce pilotage de l'emprunt, ça va nous permettre de faire les emprunts nécessaires à la reconstruction de la ville. Après, comment on stocke l'IRA? Vous l'avez dit tout à l'heure, la SFIL va simplement nous faire des propositions. Si c'est la SFIL qui est le mieux disant, aujourd'hui, ce n'est pas forcément cet organisme bancaire, et encore, je ne sais pas si c'est un organisme bancaire qui est le mieux disant, l'IRA fera partie de l'ensemble du capital. Ça, la dette du passé. Et on aura 20 ans, 10 ans.
1 506 000, ça va nous servir.
1 506 000 permet, à travers les investissements nécessaires, de couvrir l'équilibre. On n'a jamais dit qu'on allait faire 1 506 000 avec certitude. On dit aujourd'hui un emprunt d'équilibre de 1 506 000 pourrait être. C'est du conditionnel.
On reverra après lorsque vous avez un petit peu avancé sur le dossier avec la SFIL. Vous comptez renégocier combien d'emprunts?
Les deux emprunts que vous aviez évoqués, ça équivaut avec l'IRA, comme vous appelez ça, c'est l'indemnité de remboursement anticipé. Ça équivaut à 4 900 000, tout compris. C'est-à-dire 3 600 000, 1 million de crédits.
Alors, ah oui, si, juste la ligne précédente, l'excédent antérieur reporté de 388 803 estimé à ce stade de l'un des comptes. Moi, je trouve pas ça, je trouve 33 683 quand on fait dépenses moins les recettes, enfin, du moins recettes moins dépenses d'investissement, tel qu'on avait vu tout à l'heure sur les premières pages. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez dû cumuler peut-être avec des écritures d'ordre qui n'étaient pas comptées.
Non, mais en fait, là, c'est pas un calcul, c'est l'excédent antérieur reporté. Ça veut dire que c'est l'excédent qui viendra se greffer une fois le compte administratif sorti, le compte de gestion constaté. C'était l'excédent 2019 sur 2020.
Ah, oui,
on est sur l'antérieur reporté.
On est sur 2000, d'accord. Oui, parce que tout à l'heure, pour l'excédent de fonctionnement, on n'était pas sur...
Mais non, parce que tout à l'heure, on faisait le bilan de 2020, okay. Et là, en fait, je parle de l'antérieur reporté.
Ok. Alors, si j'ai vu quelques petites choses aussi, alors là c'est beaucoup plus loin, c'est sur le rapport d'orientation budgétaire du centre aquatique. Déjà, il y a un chiffre que je n'ai pas bien vu, parce que vous corrigerez le rapport, mais sur les dépenses de fonctionnement, il y a un chiffre absolument illisible, page 28. Vous me redirez, c'est pas.
Oui, en fait, ce sont les dépenses de fonctionnement détaillées comme suit, 262 347. 0,061, c'est une virgule et non pas un zéro.
Il y a la même chose d'ailleurs un peu plus loin.
Oui, je l'ai précisé également.
D'accord. Alors, donc page 29, on constate un virement de la section de fonctionnement. Vous dites que voilà, on constate un virement de la section de fonctionnement de 25 200. Or, les besoins réels de la section afin d'équilibrer les dépenses d'investissement n'étaient que de 8 257,70, ce qui contribue à la baisse du résultat de la section de fonctionnement. Mais on ne constate pas le virement de la section de fonctionnement, il n'est jamais fait. Il n'est que prévisionnel.
Bien sûr qu'il est prévisionnel, mais dans le sens où la section d'investissement n'a eu besoin pour 2020 que de 8 957 euros, il était tout à fait possible de faire en DM un retrait sur ce virement qui a affaibli la section de fonctionnement.
Pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi ça n'a pas été
D'une part parce que je n'étais pas là et d'autre part.
Quand je dis vous, excusez-moi d'abord, je suis désolée parce qu'en fait, on se parle toutes les deux, mais quand même, c'est Madame le maire qui présente son rapport des orientations budgétaires en principe. Donc c'est vrai que non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas vous que je.
C'est juste un constat.
Oui, tout à fait. Je voulais simplement savoir pourquoi, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas juste de décision modificative, puisque bon, on pourrait. Mais de toute façon, le virement n'est pas fait, donc on n'affaiblit rien du tout. Lorsque vous allez, encore une fois, lorsqu'on va faire le compte administratif et prendre la délibération qui a fait le résultat de fonctionnement en besoin d'autofinancement pour la section d'investissement, et on ne prendra que les 1957-70, je crois. Comment on peut
le Non, parce que les demandes, le virement de la section de fonctionnement via la section d'investissement qui a été fait en 2020 ne sera plus modifié aujourd'hui. Il n'est pas fait parce qu'il ne se constate pas par une écriture. Néanmoins, c'est une opération d'ordre qui équilibre une section. Et en tout état de cause, en 2021, on ne viendra pas changer cet état de fait. Ça a été délibéré en l'état en 2020. Il n'y a pas eu de DM en 2020 pour retomber sur un équilibre plus raisonnable entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. C'est certes pas en 2021 qu'on va changer les chiffres. C'est un constat. Il est là.
Je ne suis pas du tout. Encore une fois, il ne sera pas.
Il ne sera pas constaté, ne jouons pas sur les mots, il ne sera pas constaté parce qu'il n'y a ni mandat ni titre. Néanmoins, il est là, il est bel et bien là, il a été délibéré et on ne reviendra pas dessus.
Évidemment, il a été délibéré puisque à l'époque, en 2020, pour faire l'équilibre de la section d'investissement, il avait été prévu de faire ce virement. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on est sur un budget qui a subi un confinement au premier trimestre 2020 et qu'on pouvait déjà dès lors modifier par une DM dès le premier trimestre 2020. Pardon ?
Ça aurait servi à quoi ?
Ça aurait servi à ce que la section de fonctionnement n'ait pas un résultat aussi faible et que la section d'investissement ne soit pas autofinancée à hauteur de 25 000 alors qu'elle avait besoin que de 9 000.
Puisque de toute façon, il ne sera pas abondé, ce montant de 25 000. Il ne sera abondé que des 8997, je ne vois vraiment pas. Oui, quand on aura le compte administratif, on reverra ça parce que. Et c'est pareil, page 31, les recettes d'investissement réalisées sur l'exercice 2020 sont détaillées comme suit. Et vous remettez encore les 45 650 euros qui du virement de la section de fonctionnement. Non. Ces recettes ne sont pas réalisées. Elles seront éventuellement réalisées à la fin du compte administratif et lorsque vous faites votre affectation du résultat. Là, il y a vraiment une question de sémantique qui ne va pas bien. Voilà, j'en ai fini moi de toute façon avec mes petites remarques techniques. Monsieur Lansen, je vous promets que la prochaine fois, je ferai un gros effort pour venir à la section, à la commission de finances, mais là c'était vraiment un détail.
Merci d'être ici pour vos propos. Juste un point, je sais plus, vous avez dit beaucoup de choses et je n'ai pas réussi à tout noter. Je vous remercie de toutes ces précisions. Si peut-être juste une chose sur la problématique Covid, vous avez raison, on avait dit qu'on ferait peut-être un conseil municipal, on avait la journée complémentaire pour le faire début du mois de janvier. On a fait le choix de ne pas le faire parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le montant que vous précisiez et sur lequel j'étais d'accord, les 120 000 euros, les montants de subvention. Donc le montant non disponible n'est pas de 120 000 mais de 40 000 euros. Donc on a préféré les laisser en écriture sur la seule année.
On ne se prononce pas sur le contenu du rapport.
Et puis, pour revenir sur la remarque que faisait Mme Galochet et le rôle de la commission, pour que le travail qu'a pu faire Mme Galochet puisse se faire en commission, il faudrait donc qu'on puisse avoir les documents une semaine avant la commission. C'est peut-être un peu compliqué, non ? C'est normal qu'il y ait un certain nombre de questions qui soient soulevées ici en conseil municipal, même si c'est très technique, mais c'est comme ça. Mais je voulais rappeler quand même que le rapport d'orientation budgétaire, ce qui est présenté ici, c'est un document politique, pas technique. Et j'avoue que je suis assez surpris, malgré toutes vos compétences, hein, madame la directrice des services financiers, que ce soit vous qui présentiez le rapport. C'est quelque chose qui revient à madame le maire ou à son adjoint. Voilà, ce n'est pas le rapport du service financier, c'est un rapport qui engage la municipalité. Je dois dire que là, j'étais un peu choqué. C'est la première fois que ça se passe ainsi dans cette enceinte. Voilà. D'autant que vous pouvez faire des remarques d'ordre technique, mais vous vous êtes permis du coup de lire des remarques d'ordre politique qui ne sont pas du tout votre ressort. J'y reviendrai. Ce que je voulais dire, c'est que donc, nous sommes bien entendu confrontés au premier débat d'orientation budgétaire de votre mandature, madame le maire, et nous serons donc indulgents, bien malgré tout, quant à la forme de ce rapport d'orientation budgétaire et à ses nombreux manquements. Ainsi, si les parties concernant l'impact de la crise sanitaire sur la situation internationale et nationale est assez fournie, il y a effectivement beaucoup de documents qui nous y aident sur Internet, nous aurions apprécié d'avoir une analyse de l'impact de la crise sanitaire sur la situation financière de notre commune. On reste un petit peu sur notre fin de ce point de vue. Concernant l'état des lieux, Mme Galochet en a fait état, nous apprécions de vous voir indiquer que notre ville a subi 3 600 000 euros de pertes cumulées depuis 2013 du fait de la baisse de la dotation de l'État aux communes et d'un certain nombre de transferts de charges. La précédente municipalité avait eu beaucoup de mal à en convaincre sa propre opposition. Et maintenant que c'est vous qui le dites, je pense qu'on sera mieux entendu. Cette situation a en effet lourdement impacté les capacités d'investissement de notre ville pendant cette période. Mais comme aucune volonté ne semble exister au niveau de l'État pour revenir sur cette situation, c'est une difficulté importante à laquelle vous allez devoir faire face également. La suppression de la taxe d'habitation aura également des effets négatifs sur les recettes de notre commune. Après, comme vous le faites continuellement dans vos différents propos, le rapport est ici et là parsemé de vives critiques à l'égard de la précédente municipalité, qui n'a rien fait de bien, mais tout à fait d'accord, et d'une grande autosatisfaction concernant votre début de mandat. Et moi, je ne peux vous inviter qu'à un peu plus de prudence et un petit peu plus de modestie, ça vous servira pour les années à venir. Ainsi, vous écrivez 2020, année de grande maîtrise budgétaire et de contrôle de gestion dès le second semestre. Avec les mêmes services, les services apprécieront que pendant le premier semestre, ils ont fait grand-chose. Mais pour autant, la taxe locale sur la publicité des enseignes n'a pas été appelée, 28 000 euros qui font défaut, tout comme la subvention de réserve parlementaire de 55 200 euros au second trimestre, vous avez eu le temps de transmettre tous les documents. La dotation aux imprévus a aussi été amputée de plus de 142 000 euros lors d'une décision modificative pour pouvoir financer des dépenses que vous avez inscrites au budget 2020 alors qu'elles ne seront effectives qu'en 2021. Nous n'appelons pas ça de la gestion rigoureuse. Concernant les dépenses de personnel, important. Alors, si on s'en tient au tableau des effectifs que nous allons examiner tout à l'heure, en 6 mois, vous avez supprimé, non pas des postes, mais 17 emplois de fonctionnaires, un emploi contractuel, aidé, et vous n'avez pas renouvelé les 2 contrats d'apprentissage pourtant si utiles aux jeunes. Vous indiquez que cela ne pénalisera pas le niveau de service public rendu à la population. Il nous semble que les retours de la population, et surtout ceux des agents, ne correspondent pas du tout à cet avis, encore une fois, très autosatisfait. La pression sur les services est réelle. Le mécontentement est fort chez un grand nombre d'agents. Votre politique a déjà fait partir un nombre record de directrices et directeurs de services de grande valeur, et plusieurs autres nous ont fait savoir qu'ils allaient en faire de même. Des habitants le ressentent déjà alors que notre ville tourne au ralenti compte tenu de la situation sanitaire. Qu'en sera-t-il lorsque la situation va redevenir normale ? Pourtant, le budget consacré au personnel était supportable. Selon les chiffres du ministère des Finances pour 2019, il représentait 59,80% du budget de fonctionnement de notre ville contre 56,57% pour la Strat, alors que notre ville supporte d'importantes charges de centralité, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de la Strat. Et en comparaison, Provins y consacrait 59,11%, c'est à peu près la même chose, Melun 67,56% et La Ferté-sous-Jouarre, ville sénémarnaise la plus proche de Nangis, par sa taille et sa situation, 63,56%. Vos choix sont très inquiétants pour l'avenir. Vouloir à tout prix diminuer l'emploi public dans des proportions aussi importantes aura inévitablement, au contraire de ce que vous affirmez, de graves conséquences pour le fonctionnement des services. Alors de plus, nous ne comprenons pas votre calcul. 19 emplois et 2 contrats d'apprentissage supprimés, cela représente, selon nous, entre 500 et 600 000 euros de dépenses en moins. Or, vous estimez l'économie réalisée à seulement 248 952 euros. J'ai entendu M. Lancel que vous ajoutiez 80 000 euros pour le glissement des technicités, ce n'est pas grand-chose. Or, vous vous basez sur le budget 2020, qui, à mon avis, n'a pas été réalisé, compte tenu des postes qui n'ont pas été remplacés en 2020. Vous devez avoir un excédent sur le chapitre 12 en 2020, qui est relativement important. Donc, on devrait voir des propositions de réduction budgétaire plus importantes que celles-ci. Concernant l'endettement de notre commune, alors, beaucoup d'élus de la majorité, dans leurs réponses faites aux habitants mécontents, notamment sur Facebook, s'abritent fréquemment sur le fait que Nangis serait surendetté, ce qui expliquerait l'inaction actuelle de la majorité. Nous avons donc un début de débat à ce sujet. Nous remarquons que le rapport d'orientation budgétaire ne reprend pas cette affirmation. Il note juste que l'emprunt de 2 millions d'euros réalisé en 2019 a accru notre niveau de capacité de désendettement, tout comme le fera celui de 600 000 voté en 2020, peut-être réalisé en 2021, et celui d'un 1 500 000 que vous évoquez ou que vous annoncez. Pour que les élus et les Nangiciens soient convenablement informés de la situation, les chiffres de 2019 fournis toujours par le ministère des Finances sont éclairants. Quand l'encours de la dette par habitant est de 1103 euros à Nangis, il est de 1739 euros à Provins, de 2319 euros à Melun et de 1296 euros à La Ferté-sous-Jouarre. Et je vous invite à visiter un certain nombre d'écoles, si vous le voulez, ou à visiter un certain nombre de foireries dans ces trois communes. Quand Nangis a consacré 2,6% de ses dépenses de fonctionnement au paiement des intérêts d'emprunt, Provins y a consacré 7,07%, Melun 6,36%, La Ferté-sous-Jouarre 4,77%. Quand Nangis a consacré 16,8% de ses dépenses d'investissement pour le remboursement du capital des emprunts, Provins y a consacré 26,89%, Melun 19,36% et La Ferté-sous-Jouarre 28,34%. Donc je suis désolé de vous dire que vous avez affaire à une situation qui n'est pas anormale, elle est délicate, comme dans beaucoup de communes, il va falloir faire avec. J'ajoute que le schéma figurant dans le rapport montre bien que l'encours de la dette en 2019 est inférieur à celui de 2014, issu de la mandature de M. Delanne. J'espère donc que ces quelques éléments permettront aux élus de la majorité de s'en tenir à l'avenir des déclarations beaucoup plus nuancées sur ce sujet. Quant à votre volonté de renégocier l'ensemble de la dette, ça a été évoqué, nous y serons évidemment attentifs, mais nous pensons que la marge de manœuvre est limitée. En effet, les taux d'emprunt ne sont pas indiqués dans le tableau présenté dans le rapport, mais dans l'ensemble, ils ne sont pas suffisamment élevés pour que des taux plus bas compensent les pénalités pour remboursement anticipé qui seront réclamées par les banques. Votre véritable marge sera donc d'allonger la période de remboursement, ce qui n'est pas forcément une excellente solution. Concernant les investissements, là, on a un vrai souci. Il nous faut rappeler ici que le rapport d'orientation budgétaire devrait faire apparaître un plan pluriannuel d'investissement avec les prévisions des recettes et des dépenses. Nous n'avons ici que les prévisions pour 2021 et encore manque-t-il les 3 millions d'euros pour les travaux de l'église qu'il nous est proposé d'adopter dans la délibération suivante. Nous notons que, pas plus que pour l'église dans la délibération, il n'est fait état des subventions possibles pour la réfection de la halle des sports, dont le coût de 2 millions mériterait d'être précisé. Enfin, nous ne comprenons pas l'affirmation concernant la situation catastrophique de nos réseaux de matériel informatique, puisqu'elle découle d'un rapport d'audit que la précédente municipalité a commandé et que vous refusez toujours de nous transmettre. Je vous rappelle toutefois que la non-transmission de ces informations aux conseillers municipaux pourra constituer un obstacle juridique à toute décision du conseil municipal et donc à l'engagement de toute dépense afférente. Pour conclure, à la lecture de ce rapport et pour toutes les fait sans évoquer. Il ne nous sera probablement pas possible de voter en faveur du budget provisionnel que vous nous présenterez lors de la prochaine séance.
Alors, quelques éléments de réponse, monsieur Guillou. Vous nous avez dit que la situation n'est pas anormale, c'est ça. Moi, je vous réponds si. Ce qui est anormal, c'est l'état de la ville. Vous voulez qu'on parle de Provins ? Vous voulez qu'on parle des trottoirs, des routes de Provins ? Des équipements sportifs, des terrains synthétiques de Provins ? De la piste d'athlée qu'ils ont refaite 3 fois, quand nous, on a encore une cendrée qui date des années 40 ? C'est de ça que vous voulez qu'on parle ? Le plan pluriannuel d'investissement, vu l'état de nos bâtiments et de nos routes, mais les devises auraient dû être dans les armoires quand on est arrivé. Tout est à faire. Tout. C'est bien ça, le drame. C'est ça. Donc l'équation, elle est simple. La ville a besoin d'investissement. Et nous, à la différence de votre précédente majorité, on ne veut pas appuyer sur le bouton impôt. C'est simple. Donc, il faut bien trouver les ressources ailleurs. Vous nous avez parlé des agents et des départs des agents. Alors, si vous étiez complètement honnête, vous reconnaîtriez qu'un certain nombre avaient déjà annoncé leur départ avant l'élection du 28 juin et avant notre installation du 3 juillet. Vous le savez parfaitement. Ben, monsieur de Fouillou, vous vous doutez bien qu'il n'allait pas rester quand même, hein ? Monsieur le directeur général des services techniques, il était déjà parti. Bon, entre autres. Vous pouvez toujours dire que c'est faux, c'est pas parce que vous allez le répéter, ça va devenir une vérité. Je continue. Vu ce qu'on a trouvé. Non, je Pardon. Donc, je continue. Oui, certains agents ont fait le choix de partir pour des raisons personnelles, de demander des disponibilités, par exemple, parce qu'ils avaient des projets d'orientation professionnelle complètement différentes. Ils avaient la volonté de changer de région, par exemple. Ce serait quand même nous donner beaucoup de poids que de croire que simplement parce que nous avons été élus, d'un coup, les agents se remettent complètement en question à tel point qu'ils veulent changer de carrière. Donc, bien évidemment, tous ces projets professionnels différents n'ont absolument rien à voir avec notre arrivée et notre élection.
Nous n'avons pas dû avoir les mêmes conversations avec eux.
En tout cas, pas avec tous les agents, visiblement. Donc, effectivement, certains agents ont fait le choix d'orienter leur carrière autrement ou de changer de collectivité. Soit on remplaçait poste pour poste, ce qui a été votre logique pendant des années. Soit on s'interrogeait sur l'efficacité des différents services. On est tombé de l'armoire, monsieur Bill, quand on a découvert que tous les postes informatiques de la mairie n'avaient pas Word et Excel, par exemple.
C'est un choix,
parce que Microsoft, ce sont les méchants capitalistes. Eh bien, nous, on pense que pour que le travail des agents soit plus efficace, que les agents puissent être mieux dans leur boulot, au quotidien, et puissent gagner du temps, gagner en efficacité pour ne pas avoir besoin systématiquement d'enregistrer les fichiers sous d'autres versions, de convertir, etc. Ça valait le coup d'investir sur les équipements informatiques plutôt que de mettre davantage de postes. Mais non. Oui, un détail à 600 000 euros accessoirement. Enfin, bon, visiblement, les détails de l'histoire, on va en reparler.
Toutes les administrations de l'État ont fait le choix des logiciels libres. Je veux dire, c'est pas un choix anticapitaliste. Même sous le gouvernement de droite, enfin.
Renseignez-vous. Visiblement, là, le souci à la mairie de Nangis, c'est que tous les ordinateurs n'étaient pas équipés de la même façon. Donc, alors, je vais vous expliquer ce que ça fait. Ça veut dire que quand un service travaille sur un document et qu'il le transfère à un autre service, toute la mise en page saute. Et du coup, les agents sont obligés de reprendre toute la mise en page du document. Pardon, ce sont des détails qui peut-être vous échappaient. Mais c'est ça la réalité du travail de nos agents. Ça l'était, en tout cas. On apporte le confort aux agents. On s'est interrogé comme ça sur... Il n'y a jamais eu de volonté de notre part de... On n'est pas des cost killers. On n'est pas arrivé en se disant on va supprimer tant de pourcents du personnel. C'est un mensonge de le dire. Et ce serait une erreur de le penser.
Simplement, il y a des gens qui ont préféré orienter leur carrière autrement. Et donc, à chaque départ, on s'est interrogé sur comment réorganiser le service, comment travailler autrement, comment améliorer les conditions de travail de nos agents. Les conditions de travail, ça n'est pas uniquement le personnel, monsieur Biou. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, je compte. Si j'ai raison, c'est parfait. Sur l'encours de la dette, j'ai déjà répondu sur ce point à Madame Galochet. Encore une fois, le problème, ça n'est pas l'encours de la dette. Vous comparez des choux et des carottes. Vous comparez des villes qui n'ont pas la même population. Vous comparez des villes chez lesquelles... Mais la Ferté-sous-Jouarre, écoutez, il y a 10 ans, je suis allée visiter le gymnase des Bicherettes à la Ferté-sous-Jouarre. Parce que la Ferté-sous-Jouarre avait un lycée qui a été construit bien après le nôtre, sauf que eux, ils avaient des élus qui se bougeaient un peu, et très rapidement, ils ont monté un syndicat intercommunal, ils ont créé un gymnase formidable, grand, des tribunes, un mur d'escalade. Alors on peut en parler de la Ferté-sous-Jouarre, si vous voulez. Et je vais même vous dire, on était venus à la mairie présenter un projet avec les professeurs du lycée. Donc vous comparez des choses qui sont totalement incomparables. L'encours de la dette, ça ne veut rien dire. Il faut comparer l'encours de la dette et l'état du patrimoine. Juste un point sur les subventions. On ne peut pas inscrire les subventions tant qu'elles n'ont pas été officiellement notifiées.
Ah, oui,
bien vrai. Il faudra l'expliquer à votre voisin. C'est donc pour ça qu'elles n'apparaissent pas.
C'est-à-dire que vous avez dit au mois de décembre, dans le conseil municipal, au moment où vous avez inscrit, M. Lancel a répondu, si, je me fais fort d'avoir l'arrêté de subvention de la part de la Madame la préfète.
Et pour la DETR, on l'avait ? Non, on ne parle pas la même chose. Pour la DETR, oui. Pour la DETR vidéoprotection, on l'avait. Puisqu'on est passé sur 2020 pour la DETR.
Alors, pourquoi n'est-ce pas en reste à réaliser si vous l'avez ? C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la vidéoprotection qui a été budgétée par DM dépenses et la DETR en recette.
Oui, mais là, on a la notification, donc on peut la mettre. Puisque c'est de la DETR 2020 pour la vidéoprotection. Ce n'est pas de la DETR 2021.
D'accord,
pourquoi n'est-elle
pas en reste à réaliser ? C'est la manifestation tout à l'heure, hein. Je n'avance rien.
Vous avez entendu ?
Cette notification est intervenue en fin d'année. Il n'y a pas eu de nouveau conseil derrière, ni de DM de prise. Une décision modificative portée dessus en fin d'année ?
Non. Mais non, il n'y a pas eu de DM.
Ah, non.
Si.
La délibération a été prise. Est-ce qu'il y a eu une décision modificative du budget qui a été faite au mois de décembre pour inscrire les crédits ?
Une délibération. Oui, on vérifiera. Merci. Donc, je vous propose de voter ce qui atteste que nous avons bien eu ce débat. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour concerne la demande de subvention pour les travaux de l'église. Je laisse la parole à Madame Schutz.
Travaux de restauration de l'église Saint-Martin et Saint-Magne pour la phase numéro 2. Nous appellerons réfection des couvertures, chapelle, sacristie du cœur et de la travée. Par délibération 2021 janvier 023, en date du 25 janvier 2021, le conseil municipal a sollicité une aide financière auprès de l'État au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. En complément de cette demande de DETR et avant la réalisation du complément d'études préalable, il convient de solliciter l'ensemble des financeurs susceptibles de soutenir la commune de Nangis dans la restauration de son église. Au regard des estimations financières, le coût global de l'opération s'élève à 3 535 531 793,09 € hors taxes. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme de l'opération et d'autoriser Madame le maire à demander à tout organisme financeur. Alors là, on va rajouter au niveau de l'article 3 aux organismes financeurs l'Europe. Donc ça nous ferait l'Europe, l'État, le département et la région pour l'attribution de subventions. Au niveau de la délibération, nous allons retirer également l'article 4 car la somme ne sera pas inscrite sur le budget 2021. Nous verrons sur les exercices suivants. Mais nous souhaitons déjà solliciter tous les organismes pouvant nous accorder des subventions afin de voir si l'Angers est capable de restaurer son église. Madame le maire, si vous avez des...
Merci Madame Chute. Oui, l'objectif c'est d'avancer sur ce dossier. Donc même si ce ne sera donc pas inscrit pour le budget 2021, ça nous permet d'aller à la chasse aux subventions auprès des différents organismes financeurs et de pouvoir avancer sur la constitution de nos dossiers pour pouvoir être dans les starting blocks, y compris en cas de bonne surprise, de subventions, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame la Comte.
Merci, Madame le maire. Bon, contrairement au rapport d'orientation budgétaire, c'est vrai qu'il était costaud en commission finance et pour lequel il a fallu du temps. Bon, on avait un petit peu échangé avec Madame Chute sur la délibération et en effet, il y a quelques petites choses qui ont été prises en compte. Comme quoi, c'est vrai que le débat peut avancer, mais. Malgré tout, j'ai encore quelques remarques sur la délibération, vous vous en doutez bien. et puis d'autres choses me sont venues, parce qu'après quand on se pose, évidemment, on travaille, voilà, le conseil municipal. Donc, bon, la première chose qui est très regrettable, je pense, même si je comprends, Madame le maire, que vous voulez être dans les starting blocks sur cette... délibération, ce que je sais que l'Église vous tient à cœur, mais bon, elle tient à cœur à tout le monde, j'imagine. En plus, elle fait partie de notre patrimoine.
C'est pas tant qu'elle me tient à cœur, c'est surtout qu'il y a des poutres qui sont par terre. Alors voilà, il y a vraiment des choses urgentes à faire.
D'ailleurs, nous avions voté favorablement la phase 1 et la DETR, la recherche de cette subvention, puisque nous avions voté pour. Là, il s'agit de la phase 2. La phase 2, c'est pas la même urgence que la phase 1. Donc il y a plusieurs choses, je pense, qui ne vont pas sur cette délibération. Déjà, il n'y a pas eu de commission cadre de vie. Et ça, on peut quand même le regretter, cadre de vie travaux, puisque du coup, on voit l'architecte du patrimoine qui nous propose un diagnostic et un chiffrage. Mais du coup, personne n'en a débattu. La commission finance, notamment, elle était plutôt là pour parler finance. Mais c'est vrai qu'on n'en a débattu nulle part. Déjà, je pense que c'est un impair important. Je pense qu'il faut un avis de cette commission sur le diagnostic de cet architecte du patrimoine que vous avez pris.
Je vous réponds tout de suite, Madame Lagoutte, comme ça on ne fait pas oublier.
Si vous voulez.
Je voudrais préciser que sur les travaux de cette phase 2, on est donc sur les travaux intérieurs et je voudrais rappeler à l'Assemblée qu'il y a un avis de péril qui a été pris en 2017. Pour la partie derrière le cœur qui s'est éboulée. Donc on est quand même toujours sur des travaux d'urgence.
Elles ne sont pas notifiées comme ça, et justement, ça aurait été bien qu'on voit ça en commission.
Bah, écoutez, je profite de l'ouvrage pour vous l'expliquer. La première phase, qui avait été délibérée en janvier, correspondait uniquement à la toiture pour mettre hors d'eau. Ça, c'est sur la partie travaux, et puis d'avoir le déroulé des travaux prévisionnels. C'est pour ça que là, on a demandé, pour avancer encore une fois, à l'architecte de nous proposer un chiffrage, mais de toute façon, l'étude définitive, c'est ce qui constitue la phase 1.
Alors, bon, et donc, le chiffrage, je pense qu'il faut quand même que cette commission, elle soit... d'autant que le chiffrage, donc là c'est le chiffrage de l'architecte, hein, on sait. Vous avez vu le montant des travaux, plus de 3 millions. Donc je pense qu'il faudrait quand même procéder à une mise en concurrence pour ce chiffrage.
Je vous rassure, il y aura évidemment une procédure de marché public, etc. On ne va pas... Enfin, voilà. Là, c'était simplement pour avoir une base et pouvoir avancer et pouvoir prendre une délibération.
Faut que ça avance.
Et quand on va auprès des financeurs, montrer que la délibération est déjà passée en conseil municipal. Et donc, cette année, en 2021, on aura le chiffrage précis, l'étude précise sur les besoins. Et une fois cette phase faite, alors, ce sera procédure de marché public, etc. Et bien sûr, il y aura les commissions nécessaires pour étudier le dossier.
La commission aurait dû avoir lieu vu le montant de ce que propose l'architecte. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas passer comme ça en conseil municipal un montant de 3 millions d'euros que vous proposez. Alors, heureusement de ne pas l'inscrire en 2021, on est quand même soulagé. Mais du coup, non, la commission, elle doit avoir lieu dès le débarrage parce que je pense que cette commission... travaux, enfin cadre de vie, hein, c'est cadre de vie, donc les travaux, je pense, avec, elle doit vraiment s'associer dès le démarrage à cette réflexion de l'Église. Voilà, donc je ne reviendrai pas là-dessus, je suis têtue, mais non, là je pense que c'est quelque chose à ne pas faire. Donc en effet, on n'a pas de dossier sommaire du coup sur ce dossier. On n'a pas de programme pluriannuel d'investissement. Heureusement, bon, on ne votera pas en 2021, puisqu'en plus vous n'aviez pas indiqué au rapport d'orientation budgétaire, en plus c'était un point décalage. Donc on n'a aucun dossier sommaire, pas de programme pluriannuel, pas de phase de travaux, pas de priorité finalement, parce que là c'est le diagnostic de l'architecte.
C'est la phase 1.
Comment ?
Ce sera l'objet de la phase 1. C'est dans la phase 1, c'est justement ça. Là on est sur la phase 2.
Mais dans la phase 2, il y aura peut-être des priorités dans le plan pluriannuel. Donc, tout ça, c'est pas travaillé. Donc, voilà, il n'y a rien. Enfin, c'est ce qui manque. Et dans les types d'aides, alors, on en a parlé en commission, Madame Chute. Moi, j'ai demandé un petit peu quels étaient les types d'aides qu'on pouvait solliciter dans le cadre de cette réflexion. Elle n'a pas pu me répondre. Peut-être M. Gunner, qui est spécialisé, je sais, dans la recherche d'aide. On pourra peut-être nous éclairer aussi, mais je pense que justement, dans un dossier sommaire, on pourrait avoir déjà des pistes d'aide pour lesquelles on...
Vous l'avez dans l'article 3.
Non, mais c'est les aides générales.
Non, mais auprès des services de l'État, on va aller solliciter la DRAC, évidemment. On va aller solliciter la région Île-de-France. On va aller solliciter le département de Seine-et-Marne.
Ça serait bien savoir à quelle hauteur on pourrait avoir comme recette.
Mais ça, justement, ça va être l'objet du travail à suivre.
Oui. Et ça, c'est un travail qu'on aurait dû quand même débattre.
On a besoin d'avoir une délibération. Oui. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour pouvoir déposer le dossier de demande de financement, il faut avoir la délibération.
Mais non, parce que...
En fonction des demandes.
Puis le titre de cette délibération, je vais revenir après sur autre chose, mais c'est trompeur, c'est pas seulement... c'était pas seulement la recherche de subvention, puisque vous demandiez de l'inscrire au budget, donc déjà ça s'est été enlevé. C'est aussi d'accepter le programme. Et on ne peut pas accepter le programme si ce n'est pas travaillé en commission. Surtout pas ce montant-là. Voilà, moi je reste sur notre position. Bien entendu, Madame le maire, on n'est pas contre la demande de subvention. Je pense qu'on n'a pas voté contre une seule demande de subvention depuis que vous êtes maire. Et on ne l'est pas, puisque bien entendu, les demandes de subvention sont là aussi pour amener des recettes au projet d'investissement qu'on porte. Mais il faut vraiment... on ait quelque chose de plus costaud et que la commission, elle travaille là-dessus. Donc voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur la dépense de 3 millions, parce que vous l'avez retirée, et je vous en remercie, parce que je pense que la population, elle n'aurait peut-être pas compris qu'on inscrive ça en 2021, avec cette crise sanitaire sans précédent, dans laquelle il y a besoin aussi d'aide sociale, si même par ailleurs vous les avez pas mal diminuées. Donc on votera contre cette délibération. Faites travailler la commission cadre de vie, Madame le maire. Et puis,
ce qui m'importe, Madame la Gou, c'est que vous ayez compris l'esprit de cette
délibération. Je comprends l'esprit, mais je ne comprends pas la façon dont
on a... La crise sanitaire, oui, bien sûr, mais on le sait tous. Il y a aussi des fonds de relance. Voilà. Donc le but, c'est de pouvoir avancer pour aller chercher. Et oui, les dossiers qui étaient prêts, là, j'allais dire là encore, comme je disais que l'avis de péril date de 2017. Si on avait eu un dossier ficelé dans les armoires en arrivant, on aurait pu directement le déposer complet en demande de DETR avec toutes